cette semaine dans le service après-vente de la F1.
Rubén Barrichello pense que Williams serait dans le top 3 s'il était resté du côté de Grosjean.
James Gay débarque bientôt chez Toro Rosso.
Animateur et chroniqueur font le point sur les moteurs de 2014.
Nelson Piquet Jr. avec Grosjean, Raikkonen et Ayrton Senna.
Nelson Montfort, Patrick Montel et Lionel Chamoulot rêvent la F1.
Et l'équipe fait ses pronostics pour la fin de saison.
Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission du SAV de la F1. Cette semaine, on rentre de vacances et on va revenir sur toute l'actualité, non pas de la semaine, non pas des deux semaines, mais au moins des trois dernières semaines de la F1.
Ouais.
Pour m'accompagner, et cette semaine, sa couleur, c'est le rose.
Oh, mais non, mais arrête, j'ai mis du blanc. C'est ça, je suis neuf.
Oui, mais
je
tu as reçu ton papier ça. Rose.
Ah oui, non, pas encore.
Ouais, mais...
Oui, je tiens à vous dire, vous allez tous mourir.
T-shirt rose, papier rose. Oui, mais eux, ils s'en foutent, ils habitent pas dans l'agglomération de Rouen. C'est moi qui suis le plus en danger.
Ça ne veut rien dire. Maintenant que je vais avoir peut-être une voiture, bah, je pourrai me déplacer.
Et il était temps à 45 ans. Hein.
Pour nous accompagner ce soir, vous aurez déjà reconnu Gus Gus.
Bonsoir.
Mais Gus Gus n'est pas seul, Shinji.
Non, il est accompagné par celui qui, quand même, dans ses mails, se prend pour Bruce Wayne et Superman.
Oui, celui qui nous envoie le message suivant. Moi qui pensais passer une soirée tranquille devant ma télé pour une fois qu'il y a un truc. Heureusement, Dieu a inventé l'enregistreur du coup. Tel Moïse émergeant des flots, tel Superman transperçant les nuages, tel Bruce Wayne réalisant le saut de la mort pour sortir de son trou. Bref, vous avez compris que je serai de la partie pour évoquer avec vous les dernières actus palpitantes de cette trêve estivale.
Bonsoir.
Bonsoir Ben.
Déjà, vous vous retrouvez avec deux chroniqueurs au lieu d'un, et comme ça, vous avez une belle intro.
Et d'ailleurs, au sujet des chroniqueurs, faut quand même qu'on annonce quelque chose. Alors, je sais pas s'il l'a dit sur Twitter ou pas, je crois que oui. Peut-être que ceux qui suivent sur Twitter le savent déjà, nous, bien évidemment, on le sait déjà. Et ben, c'est Steph Core.
C'est nous qui l'avons abattu.
Oui.
Il courait dans la cour comme ça, avec clac, un petit coup de fusil.
Il nous a quitté trop tôt.
Voilà, il nous a quitté. Vous inquiétez pas, il va très bien. C'est juste qu'il a décidé d'arrêter le Mac du SAV, voilà.
Non, on l'a viré, il faut te dire. Hein. Le mec, il oublie.
Non, on va pas passer pour les salauds, les méchants et tout ça. Hein. On va leur dire la vérité aux gens que si c'était nous, on voudrait qu'ils soient encore dans le Mac. Mais voilà, c'est son choix.
Ça dépend, s'il branche son micro, on veut bien qu'il soit là. Non, voilà, on en profite du coup pour le remercier pour tout ce qu'il a fait en tant que chroniqueur, mais aussi pour nous, hein, même si nous, il a pas été que chroniqueur, il nous a aussi aidé dans la communication et compagnie. Ça a été il a toujours été de bons conseils, on espère qu'il le sera encore, et voilà, on lui souhaite bon vent pour d'éventuels autres projets qu'il aurait, et voilà, ça fait qu'on verra plus souvent Ben, Gus Gus et Fab.
Peut-être.
Oui, d'ailleurs, Fab va bien, on rassure les auditeurs.
Oui.
Ça fait un moment qu'il est plus venu, mais il vit toujours.
Il est
on sait pas dans quel état il est.
Entre la canicule et son mémoire, je crois qu'il a perdu 75 kilos.
Ouais. Ne vous foutez pas de la gueule de Fab. Fab, cette semaine, a envoyé ses actus.
Waouh!
Bravo!
Et il les a même envoyés avant tout le monde!
Ouais. Oh la vache.
Alors messieurs, c'est vrai que ça fait quelques semaines qu'on n'a pas fait le mag, mais vous vous rappelez par quoi on commence toujours?
Par la question à la con, c'est ça?
Il dit ça parce qu'ils sont derrière. Tu vois, ils mèneraient comme nous, ils diraient pas la question à la con.
Ah non, c'est pas ça que je voulais dire. La question inutile, tu vois, on commence par la fin.
Ah, là où on vous met la pâté.
Le truc où il n'y a pas de jingle.
Le service à pavant de la F1 vous présente... Le duel animateur contre chroniqueur. Enfin, duel. Ouais, un duel.
Alors, on rappelle que, au classement, nous menons, mais en même temps, on mène depuis le début de la saison, 20 à 11.
Ah, c'est pas vrai. Première question sur la triple couronne, c'était nous qui avons répondu.
Oui, voilà, ils ont mené 10 minutes.
Oui, bah écoute, hein, l'an dernier, Sébastien Vettel, il a pas forcément fait le meilleur temps des premiers essais libres, hein, en Australie. On sait comment ça a terminé, voilà.
Oui, mais en même temps, on ne pourra pas le lui retirer.
Donc c'est quoi déjà le score, tu dis?
20 à 11.
20 à 11, c'est-à-dire que je vais poser une question, si tu réponds, enfin, ce qui va se passer, on sera à 21 à 11.
Oui.
Et si Gus Gus et Ben répondent, ils seront à 21, ils seront à 20 à 13.
C'est pas de carotter.
Voilà. On ne carotte pas.
21 à 13, t'allais dire.
Oui, non, mais c'est parce que je. Oh, mais. Vraiment, vous êtes mauvais perdant, c'est incroyable.
Ouais, c'est fou.
Alors, messieurs, cette semaine, ce sera un chiffre, un nombre même. Je dirais même, ce sera un nombre pas sûr.
Oh là là.
Commence mal.
Puisque ce nombre, c'est 17, mais ça pourrait être 14. Mais c'est 17.
Ça concerne 2012 ?
Oui, indirectement. Enfin, l'année 2012 en général.
L'année F1 2012 quand même.
Oui.
Indirectement.
Est-ce que c'est un rapport avec une équipe ?
Non.
Avec un pilote ?
Non.
Avec un circuit ?
Oui.
Avec un circuit sur lequel on a déjà roulé cette année ou sur lequel on va rouler dans la suite de la saison ?
Sur lequel on va rouler sur la suite de la saison.
À Spa ?
C'est concerne Spa.
C'est le nombre de milliers de tickets qui n'ont pas encore été remboursés par la société là ?
Non.
C'est le nombre de virages ? Dans le circuit de Spa
non, je crois pas.
Parce que 17 ou peut-être 14, c'est qu'il faut quand même creuser pour faire un raccourci, quoi.
Et ça dépend. Si tu prends même pas les stands, tu coupes pas de virage, merde. Les anciens stands, tu coupais l'arrêt de bus, donc ça aurait pu passer, mais là, non.
C'est Ecclestone qui veut faire ce raccourci, du coup
Non.
C'est le prix que le circuit va payer pour avoir la Formule 1 en 2013, 2014 et 2015. Ils ont signé un 17 et ça aurait pu être 14. Ils auraient bien voulu 14.
En millions d'euros, ce qu'ils vont perdre.
Non.
C'est un rapport avec la reconduction, quand même, ou pas?
Non.
C'est 17-17, c'est pas genre 2017 ou 2014.
Non, c'est 17.
Ou 14.
Okay. C'est 17.
Et peut-être
14. Voilà, c'est-à-dire que, officiellement, c'est 17, mais officieusement, c'est 14. Mm-hmm.
Est-ce que c'est un rapport exclusif à la Formule 1, ou est-ce qu'il y a d'autres championnats de sport mécanique qui sont impliqués là-dedans?
Alors, je pense que c'est centré quand même pas mal sur la F1, mais que ça évoque un petit peu tous les sports mécaniques en lien avec Spa-Francorchamps.
Ils vont ouvrir un musée, quelque chose dans le genre ?
Non, il y a déjà un musée.
Déjà un musée.
À Stavelot.
Va y avoir un défilé de voitures ?
Non, peut-être, mais non.
C'est 17 choses ou 17 personnes ?
C'est plutôt des choses.
Plutôt des choses.
C'est tangible, ça peut se toucher, ces objets ?
C'est les grid girls des choses.
Non, on a reçu des filles la semaine dernière, nous met pas dans la merde.
Les poupées gonflables ?
Sinon, c'est des choses qu'on peut toucher, oui. D'ailleurs, je dirais même, pour nous en servir, il faut impérativement qu'on le touche.
C'est des voitures.
C'est le nombre de marches sur les escaliers, parce que le paddock est à deux niveaux à Francorchamps.
Peut-être, mais non.
Pour s'en
tu les compteras quand tu y seras et tu nous feras le chiffre.
Et quand il pleut, ça casse gueule. C'est des trucs métalliques, c'est horrible. Enfin bon.
C'est un moyen de se déplacer.
Je suis tenté de dire d'une certaine manière. Mais ce serait bâtard, donc non.
T'as dit que ça concernait pas que la F1. Donc quand la F1 sera partie, ces choses seront toujours là.
Oui.
Donc c'est quelque chose qui est tout le temps sur le circuit.
Non.
Ça n'est là que quand il y a une compétition.
Est-ce que ce sont les
postes de commissaire ?
Alors, c'est ni les tribunes, ni les postes de commissaire. C'est pas quelque chose qui est sur le circuit, en fait.
Qui est dans le paddock ?
Il y sera peut-être ce week-end, mais traditionnellement, il y est pas.
Il
bah, cette
singulier
chose.
Cette chose en 17 exemplaires ou 14.
Donc, c'est quelque chose qui est autour du circuit ? Enfin, autour.
C'est facile à déplacer ou pas ?
Oui.
Donc, c'est petit.
Ça dépend par rapport à quoi ?
Est-ce que ça tient dans une main ? Est-ce qu'on peut le prendre à une main ?
Oui.
Rubik's Cube. Je sais pas si j'en ai un sous le nez.
Ah, c'est la... Bah non. J'allais dire c'est la prom de Button après que Grosjean l'ait ratatiné.
J'adore ceux qui pensent ça au moment où on parle de Rubik's Cube. Je vais mettre la face blanche contre la face blanche. face blanche derrière.
C'est la collection d'ailerons arrachée par Pastor Maldonado au cours de sa carrière.
Non. Mais vous êtes loin, enfin, vous êtes super loin.
Est-ce que c'est un objet qu'on rencontre communément dans une compétition automobile ?
Non.
Est-ce que c'est un objet commun de la vie de
J'ai envie de dire que c'est un objet, si tu te rencontres en compétition automobile, c'est que tu te fais chier. Et c'est un objet de tous les jours.
Un oreiller, un coussin ?
Non.
Un téléphone mobile ?
Mais vous avez pas encore trouvé pourquoi 17 ou 14 ? Enfin, qu'est-ce que c'est que 17 ?
C'est lié à un sponsor ?
Non.
17, c'est pas le nombre d'exemplaires de cette chose ?
Non. Non, des exemplaires...
C'est pas 17 objets, donc c'est un objet qui est caractérisé par le nombre 17.
Oui.
Ou 14.
Ou 14. Ça dépend du point de vue.
On le casse. C'est place, un prix, on... 17 ou 14 ?
Non. Le 17 d'or. Le 14 d'or. C'est quand t'as 2 7 d'or, t'as un 14 d'or. Allez, sympa cette question.
C'est un objet moderne ou pas?
Alors, j'ai envie de te dire qu'avec l'évolution récente, c'est pas vraiment moderne. Mais c'est un objet, je sais pas si on peut vraiment qualifier de moderne ou d'ancien.
Est-ce que ça a été à la pointe de la technologie dans le passé quand même?
Oui. Oui.
Est-ce que ça a été développé par Nelson Piquet Senior?
Tout ce que je peux te dire, c'est que si ça a été développé par Piquet Senior, c'est sans doute Ayrton Senna qu'on a mieux profité.
Le casque? Enfin, non.
Non. Non, c'est le cul de rien. Ne vous fiez pas du tout à cet indice ou à cette question.
Oui, parce que c'est pas un objet commun des sports mécaniques.
C'est quelque chose qui est absolument nécessaire en Formule 1 ou c'est quelque chose dont on pourrait se passer?
Oh, c'est quelque chose dont on pourrait se passer.
Et dont on se passe ou pas, généralement?
Oui, on s'en passe. En tout cas, quand on est dans le paddock de Formule 1, on s'en passe.
Est-ce que c'est des télés?
Non.
T'as dit tout à l'heure qu'on si on les voyait, c'est si on les utilisait en F1, c'est qu'on se faisait, c'est ce qu'on ferait.
Ah bah, si tu t'en sers, vraiment, c'est que tu te fais chier, quoi.
C'est quelque chose dont les pilotes peuvent se servir ou d'autres personnes peuvent s'en servir. Est-ce qu'un fan peut s'en servir?
Ah, c'est à tout public.
Tout public.
Donc, les fans peuvent s'en servir. Je pense d'ailleurs que c'est plutôt les fans qui vont s'en servir.
Est-ce que c'est des téléphones?
Non.
Est-ce que c'est comme en NASCAR, des petits instruments pour voir la course comme sur les écrans géants?
Non.
Ouais, j'allais dire, il y a des petits, les Kangoo TV, là.
Ouais, voilà.
Mais vous êtes trop près du circuit, ça concerne le circuit, mais ça concerne pas le circuit, c'est pas quelque chose qu'on va utiliser sur le circuit. C'est justement, si on l'utilise sur le circuit, c'est vraiment qu'on se fait chier. On se demande pourquoi on l'a ramené sur le circuit. C'est plus quelque chose qu'on va utiliser chez soi.
Une binette.
Toi, tu pensais pas une binette, mais c'est pas une binette.
Mais c'est spécifique à Francorchamps ou
Ah bah celui-là, oui, il est spécifique à Francorchamps. C'est là où vous n'avez pas trouvé, c'est que 17 ou 14, c'est parce que je vais vous le dire, c'est le 17e ou le 14e, en fonction du point de vue où on se place.
Le 17e ou le 14e?
Elle est super bonne,
cette question. Ah, le Grand Prix sous la pluie à Spa?
Non.
Parce que
est-ce que c'est une question Wallonie-Flandre, cette différence?
Non.
Non.
Et donc, qui sont les gens qui sont, enfin, c'est pas une question ouverte, c'est pas une question fermée, mais c'est qui sont les gens qui sont susceptibles de pas être d'accord sur 14 ou 17? Il y a des gens qui s'opposent entre 4?
Non, il y a pas de gens qui s'opposent, c'est que, c'est-à-dire que si tu les comptes tous, celui-là c'est le 17e. Après, il y en a trois qui se répètent dans l'eau, et donc on pourrait très bien considérer que celui-là, en fait, c'est en réalité que le 14e. Quand vous saurez ce que c'est, ça va être très clair ce que je viens de dire.
C'est un rapport avec les statistiques?
Non.
Donc normalement, il y en a 14 différents, mais sur 17 en fait, puisque 3 se répètent.
Voilà.
Il y a 17 événements qui
mais c'est pas des grands prix.
Personnes, quoi.
C'est pas des grands prix.
C'est quelque chose de physique.
D'ailleurs, je peux vous dire que j'en tiens un dans la main.
Un Rubik's Cube?
Non.
Parce que moi, j'en tiens un dans la main. Là.
C'est pas des tablettes. C'est trop récent.
Un ordinateur portable?
Non.
Une souris, un clavier? Enfin, c'est...
Non.
Un bic, un stylo, un crayon.
Un DVD.
Le bic de Flindre.
Non. Mais il y avait l'idée.
Un papier?
Je peux vous dire, j'en ai un. Il est vert et jaune.
Le 17e guide du SAV.
Non, mais on n'est pas loin.
Le guide du Grand Prix, enfin...
Le
livre d'or de la Formule 1 2012, quelque chose dans le genre.
Non, mais on est dans le domaine du livre.
D'accord.
Livre, d'accord.
La 17e biographie de Lewis Hamilton.
Non.
C'est Froissart et l'enfant
de Lewis. Ils sont tous différents, mais pourquoi 3 seraient identiques?
Ça concerne Renaud de la Borderie?
Non.
Un journaliste français ou pas?
Dans celui-là, non. Dans les précédents, il était souvent, il y avait souvent un journaliste français, mais dans celui-là, c'était plutôt un journaliste belge.
Me dis pas que c'est un
le Red Bull
Grand Prix.
Alors, vas-y, répète, Shinji.
C'est pas les exemplaires de Grand Prix là, le journal?
Non.
Non.
Le Red Bulletin?
Non.
C'est une publication qui est faite par une écurie?
Non.
C'est un périodique?
Ah quoi que, ah non, je tiens à rectifier. Non, ça serait vache.
C'est un périodique.
Même si c'est lié à une écurie, mais non, je peux pas trop en dire. C'est un périodique, non.
C'est lié, il y a eu une biographie.
C'est une collection de livres.
C'est une biographie d'un pilote.
c'est pas la biographie d'un pilote, mais dedans, dans tous ses livres, pour vous dire, c'est de tous ses livres, c'est la première fois qu'il y en a un qui parle d'un circuit, et ils ont choisi Spa-Francorchamps. Généralement, ils parlent plutôt de pilote ou de constructeur.
Spa-Francorchamps pour les nuls.
Un dossier c'est Michel Vaillant.
Vas-y, je te dis.
J'allais un dire. Dossier Michel Vaillant.
J'allais le dire.
C'est le 17e dossier Michel Vaillant qui est consacré à Spa-Francorchamps.
Non, c'est le 14e.
Mais en fait, c'est le 14e parce que il faut compter dedans qu'il y a déjà eu le précédent qui était sorti, c'était Gilles Villeneuve, qui était en fait une réédition du dossier Michel Vaillant consacré à Gilles Villeneuve. Et ils ont aussi publié récemment le dossier Michel Vaillant sur Coluche, qui avait déjà été publié dans une précédente édition. Et puis sur Senna aussi, il y avait déjà eu une version précédente et ils en ont refait une. Donc voilà, il est sorti cette semaine. J'ai eu la date du 24 et la date du 26. Donc il est sorti le week-end dernier. C'est le dossier Michel Vaillant, spécial Spa-Francorchamps. C'est le premier circuit qui est honoré d'un dossier Michel Vaillant. Et donc bravo Shinji, on marque un point grâce à toi.
Et donc c'est le 14e ou 17e dossier Michel Vaillant qui sort le 24 ou le 26. C'est super clair, c'est génial.
Mais c'est que moi j'ai trouvé deux dates. J'ai trouvé une date sur site officiel, ils disent qu'il est sorti le 26. Maintenant sur des sites de critiques, ils disent il est sorti le 24. Donc j'aurais plutôt tendance à dire c'est sorti le 26. Je fais confiance à l'éditeur. Oui. Mais après ça peut dépendre aussi des pays ou même
Il s'est échangé en sous-main au marché noir.
Ah, c'est vrai que quand tu vas sur le site officiel Michel Vaillant, oui, ils sont numérotés jusqu'à 17, mais c'est des rééditions, donc
voilà.
C'est bizarre.
Donc voilà. Donc ça nous fait, je te dis, 21 à 11.
Sur le fil, celle-là. Sincèrement, sur le fil.
Ouais.
Vraiment sur le fil. En fait, Shinji m'a presque coupé dans mon élan.
Oui. Il reste combien de mags, là?
Il en reste un après l'Italie. Ça fait deux après Singapour. Après le Japon, ça fera 3.
Moi, j'ai l'impression que c'est mort déjà.
Oui, c'est peut-être pas loin.
Ouais. Parce qu'il en faudrait 6 ou 7 pour que ça fasse tous les deux numéros, on marque 3 points au maximum.
Ouais.
Il en faudrait 2, 4.
Sachant qu'il faut qu'il en reste un nombre impair.
Ouais.
Mais ça continue en 2013, on remet pas les compteurs à zéro.
C'est un jeu sans fin.
Ça dépend. Bon, pourquoi pas.
Si on met le 31 à 11 à la fin de l'année, vous voudrez peut-être commencer à zéro. Nous, on veut bien, ça ne dérange pas.
On avisera.
Je note donc 21 à 11.
T'as raison, je suis de noter.
Oui, on va finir par être blasé.
La prochaine fois, je vais faire un texte à trous, tu vas voir.
Il y aura donc deux trous. Hein.
Allez messieurs, on va passer au podium.
Le service après-vente de la F1 vous invite à découvrir le podium de l'actu. Le seul podium au monde à géométrie variable.
Et alors, étonnamment, il y a eu beaucoup d'actualités citées. C'est-à-dire qu'il n'y a pas...
Le dernier sondage.
Là, je parlais de...
Ah non, d'accord.
De là.
Non, c'est génial, dans le dernier sondage, c'est normal.
Oui, il y en avait beaucoup, c'était au dernier sondage. Mais là, cette semaine, donc, c'est vrai qu'il y avait au moins 3 semaines. Et en fait, il y a eu beaucoup d'actualités, mais comme il n'y en a eu aucune qui était vraiment hyper dominante, il n'y en a aucune qui, on va dire, a scoré. C'est-à-dire qu'il n'y en a aucune qui a été citée plus de 2 fois, quoi.
Ouais, c'est l'exemple, en fait, que, voilà... Il n'y avait pas vraiment de grosses actus pendant ces 3 semaines
non.
À moi.
Non, bah non, puisqu'on a même réussi à parler de Nelsinho Piquet, donc c'est pour te dire qu'il n'y avait vraiment rien.
Il a quand même bien choisi son moment, quand même. Et moi, je dis, sincèrement...
Il devrait travailler pour HRT, là, parce que...
Il a un sens du timing, ce...
Ah ouais, bah c'est ça, quoi.
Tu es admiratif.
Il sait se mettre dans le mur au bon moment, il sait gagner au bon moment, c'est magnifique, quoi. C'est...
Alors, quel homme. Tu le rappelais, hein, il y a 3 semaines... On avait fait une folie, on s'est dit, on vous met toutes les actus pour voir si finalement, est-ce que le choix du public, est-ce que le public va choisir les mêmes 5 que nous. Alors, à noter que sur les 10, il y en a une qui a eu aucun vote, c'est Force India qui abandonne le développement de sa voiture, car tout le monde se fout de Force India.
Même eux, ils ont pas l'air très intéressés.
Avec 2 votes chacun, on a eu Charles Pic sortir de l'ombre et Hamilton aimerait revoir Kovalainen aux avant-postes. Ensuite... Sur le cran au-dessus, on a 3 infos à 5. Alors, il y a l'interdiction du double DRS, donc qui ne rentre pas dans les 5. Donc, nous, on l'avait mis, pas les auditeurs. Button qui a songé à arrêter sa carrière cette saison. Ça, pareil. Nous, on l'avait cité. Vous avez trouvé qu'il y avait d'autres choses importantes. Et Button, pas encore prêt à aider Hamilton pour le championnat. On l'avait exclu. Alors que c'est la cinquième ex-aequo, en fait. Il y a trois votes qui sont ex-aequo à la cinquième place. À la quatrième place, les transferts. 7 votes. À la huitième place, la FOM qui lance l'appel d'offres pour la diffusion de la F1. Ça, on ne l'avait pas pris. Et vous avez jugé que c'était important. Et enfin, les deux premières ex-aequo avec 9 votes. Donc, il y a eu beaucoup de votes. Il n'y a pas eu là non plus d'actu qui a vraiment dominé, parce que il y a eu deux actus à 9 votes. Pure qui suspend ses activités et Pirelli qui ne veut pas d'une guerre des pneus. Donc, les deux premiers, 9 votes chacun. Pour vous donner une idée, vous avez été 52 à voter en tout.
Nous vous en remercions. Je sais pas qui n'était pas là la semaine dernière.
Étaient déjà là.
On était déjà là, en fait. Ah. C'est ça.
Alors, Fab, est-ce que tu as quelque chose à nous dire? Vas-y, Fab, on te laisse la parole, on te laisse 10 secondes pour parler. Dis-nous ce qui t'intéresse.
Je peux pas, j'ai des problèmes de mémoire en ce moment.
Merci, Fab.
Et donc, cette semaine, hein, comme je disais, on a quand même cité 17 actus. Donc, on pourrait croire, waouh, il y a eu des tas d'actus et tout. Et en fait, il y a eu des actus qui ont été citées deux fois. Vous allez voir que même les actus qui n'ont pas été citées, elles sont pas spécialement, elles sont du même niveau, quoi. Ça s'est pas joué à tant de choses, quoi. Mais bon, faut en garder 5. Et on va commencer par Rubens. Rubens, dont on n'avait pas entendu parler depuis quelques temps. Hein. Rubens, qui, en bon pilote, hein, quelle est une bonne caractéristique du pilote? Le pilote ne manque pas d'orgueil, hein. Et donc, Barrichello n'hésite pas à dire que cette année, Williams devrait être dans le top 3. Surtout si, bien évidemment, lui, il y était.
Moi, là où je rejoins Barrichello, c'est que Williams devrait être un peu plus haut dans le classement, le top 3. Peut-être pas, mais ils devraient être plus haut que ce qu'ils sont. Là où je suis aussi d'accord avec Rubens, c'est que là où ils perdent le plus de points, c'est avec les écarts de conduite de Maldonado, qui n'a plus rien marqué depuis Barcelone, et qui en soi n'a marqué que 2 fois sur la saison. Donc encore une fois, voilà, le bonhomme est rapide sur un tour, mais...
À chaque fois, c'est ses courses, hein, parce qu'il se qualifie
ouais,
plutôt
c'est ça,
bien,
il se qualifie
mais à chaque
bien,
fois, il foire ses courses.
En fait, c'est plus ou moins l'inverse de Senna. C'est-à-dire que Senna pêche en qualification et se récupère pas trop mal en course. Et Maldonado, il fait des bonnes qualifications, mais faire des bonnes qualifications, ça, c'est pas tout, quoi. Ça peut aider, ça aide d'ailleurs, mais il faut arriver au bout de la course, quoi. Donc,
Et même à la limite, tu vois, il ferait des mauvaises courses derrière. Bon, il fait des mauvaises courses. Mais là, il fait même des plutôt pas mauvaises courses.
Oui, bah s'il se mettait pas dehors, il fait des bonnes courses.
En Australie, il jouait une belle place derrière Alonso. À Valence, il jouait le podium et compagnie. Sauf que derrière, il se fout tout seul dehors dans les derniers instants. Mm-hmm. Et voilà, quoi. Enfin, c'est un mec, on sent qu'il y a du potentiel, qu'il est plutôt bon. Mais c'est une espèce d'étalon qui est pas du tout, du tout calmé. Et donc, il saute dans tous les sens, il rentre dans tous les camarades, il donne des coups de sabot et compagnie. Et voilà, donc, c'est vrai que s'il avait peut-être eu à côté de lui quelqu'un peut-être de beaucoup plus expérimenté comme Barrichello et quelqu'un qui faisait plus de résultats, il aurait peut-être pas apporté, je pense que c'est un pilote qui se met peut-être aussi la pression, qui se met dans l'obligation de faire des résultats et compagnie, parce qu'il j'ai l'impression qu'il assume parfaitement le fait d'être le leader de l'écurie. Et je pense que s'il avait eu un mec qui était un petit peu à côté et qui occupait cette place de leader, il serait un peu plus soft, quoi, tout simplement, parce qu'il aurait ce grand frère qui est à côté de lui et qui occupe déjà ce rôle de leader, quoi.
Mais est-ce qu'il l'écouterait? Parce que il avait à côté de lui en 2011 et en 2011 c'était pas vraiment un enfant de cœur, quoi.
Mais là, en 2011, la différence, puisque Barrichello dit que l'an passé il a eu moins d'incidents, il était moins souvent dans le paquet avec la Williams. La Williams était quand même rarement en la lutte avec des monoplaces. Il y avait de la lutte, mais ici elle est vraiment dans le paquet avec des écuries qui sont quand même performantes et elle se bat plus à l'avant que ce qu'elle ne le faisait l'an passé. Donc ça joue aussi, l'air de rien.
C'est pour ça que moi, je pense pas que Barrichello ou pas, ça aurait changé quelque chose. Parce que, alors.
À Barrichello, je pense pas, non.
En plus, Maldonado, dans ses 3 semaines, a dit que ses erreurs, c'était normal, qu'il était en phase d'apprentissage, etc. C'est bien joli de dire ça, mais il faut être enclin à, quand on fait des erreurs, à en apprendre, à savoir changer son comportement en conséquence pour en faire moins. Et c'est pas l'attitude que semble avoir Maldonado sur ces deux saisons, quoi.
Mais c'est-à-dire que les erreurs qu'il fait cette année, on les aurait plus acceptées l'année dernière.
Oui.
Ici, c'est quand même sa deuxième saison. Et on n'attend pas d'un pilote qui a fait, finalement, qui a déjà une certaine expérience. Il n'a pas complète, mais on attend d'un pilote qui fait une deuxième saison, qui fasse moins de bêtises qu'en première. Et là, globalement, il en fait plus. Quand tu vois comment ça a gueulé déjà quand Grosjean s'est fait sortir lors de ses deux premiers Grands Prix, ici sur Maldonado, chez Williams, je me poserais quand même un peu des questions. Pas forcément de le foutre dehors, mais essayer quand même de sérieusement le recadrer, quoi.
Mais je pense même que s'il avait eu à côté de lui un coéquipier qui faisait, lui, des résultats, un Hamilton, un Alonso, un Vettel, un Button, un patron dans l'équipe, je pense qu'on aurait aussi attendu lui de moi. Je trouve qu'on lui pardonne peut-être aussi un peu moins ses erreurs. Il ne faut pas les lui pardonner, hein, parce qu'elles ne sont pas pardonnables. Mais je pense que s'il avait été dans un contexte avec un pilote plus expérimenté, ça serait peut-être un peu plus passé à l'as.
Il y a eu une actu d'ailleurs, c'est Gus Gus qui l'a cité. Pour lui, ses erreurs sont normales.
Oui.
Mais moi, je me demande si finalement le fait que lui c'est un peu le leader naturel de l'équipe parce que il est là depuis plus longtemps que Senna. Il est plus jeune en parenthèse. Il a juste un an de moins. Il a 27 ans et Senna en a 28. Mais de ce fait-là, du fait qu'il ait gagné, est-ce qu'il se met pas un peu trop de pression lui-même en se disant maintenant que j'ai gagné, les autres, enfin l'équipe, les observateurs, etc., vont attendre plus de moi. Alors que finalement, personnellement, j'attendais pas spécialement grand-chose de Williams cette année, parce que après la saison 2011, je m'attendais vraiment pas à des miracles, même si Williams-Renault, forcément, ça rappelle des souvenirs et ça fait un peu rêver. Et j'en attends pas forcément beaucoup plus maintenant que même s'ils ont remporté une course. Ils ont bien progressé par rapport à 2011, plus que ce qu'on aurait pu penser. Mais je m'attends pas à ce que Williams aille se battre régulièrement pour le podium, joue les victoires ou quoi que ce soit. Williams doit jouer les points, point barre. Et j'ai l'impression que Maldonado, peut-être, avec sa victoire, il veut absolument... on voit à Valence, c'est typique. Il peut assurer même une quatrième place, le podium lui tend les bras parce que Hamilton, les pneus, ils vont pas tenir. Donc quoi qu'il arrive, il va passer. Eh ben non, il faut qu'il passe plus vite, il faut qu'il s'assure le plus rapidement possible le résultat, le podium, et au final, il part avec 0 point, quoi.
Mais c'est le malheur de Williams cette saison, c'est qu'ils ont une très bonne voiture, qui est capable de faire des bonnes choses, peut-être pas de briller et compagnie, peut-être pas d'avoir plusieurs victoires, mais de faire des bonnes choses. Et le problème, c'est qu'ils se retrouvent avec des pilotes qui n'ont pas l'expérience nécessaire aujourd'hui pour accompagner l'équipe dans cette étape super importante. Je pense que même Williams, ça les surprend de se retrouver à ce niveau-là cette saison et d'être aussi compétitif. Et je pense qu'effectivement, peut-être un pilote plus expérimenté aurait évité pas mal de... C'est une porte ouverte que j'enfonce. Mais que ça aurait évité pas mal de problèmes. Et je pense qu'un mec comme Kovalainen et compagnie aurait pu davantage assumer ce rôle et peut-être moins se mettre la pression, moins se monter le ciboulot. Il faut quand même se rappeler que Maldonado, au soir du Grand Prix d'Espagne, il dit « je vais me battre pour le titre ». Mais... là, il vient de déclarer, il vient de faire une interview il y a quelques semaines en disant « je veux être champion avec Williams ».
Mais l'équipe l'a souligné, hein, après sa victoire, il joue parfois des courses en jouant la victoire.
Ouais.
Mais vraiment, là où il ne devrait pas, où justement il devrait calmer le jeu. Ça a été confirmé par l'équipe. Hein.
Ouais, il veut assurer les points, Williams. Ils sont comme je l'ai dit, dans le paquet.
Non, justement, il ne veut même plus assurer les points.
C'est ce qu'il doit faire, pourtant. C'est ce qu'il doit faire.
Voilà, tout à fait.
Justement, ils sont dans le paquet avec Sauber et Force India, qui sont un peu plus loin, mais qui se rapprochent, l'air de rien. Ou avec des écuries qui sont quand même super compétitives, et où chaque point va compter, au décompte final. Donc,
c'est pour ça que, moi, à partir du moment où il écoute pas son écurie, peut-être même qu'elle lui dit pas, mais qu'elle devrait lui dire calme-toi, joue les résultats, joue placé plutôt que la première place. Moi, à mon avis, n'importe quel pilote à côté de lui, ça changera pas la situation. Je pense qu'il a besoin de quelqu'un pour le coacher.
Quand, quand je parlais d'un pilote à côté, c'est pas pour lui pour le changer. Enfin, ils ont comment on s'appelle ? Ils ont Alexander Wurtz qui est là en conseiller. C'est, mais je suis bien d'accord. Tu pourrais mettre n'importe qui à côté de lui. Il ferait quand même des conneries. Mais en termes d'image, je pense que s'il avait aujourd'hui à côté de lui un mec qui carburait, qui faisait des résultats, bah, lui avec le même palmarès que cette saison, on parlerait un peu moins de ses conneries et on le jugerait peut-être un peu plus justement au fait que bah oui, c'est quand même un mec qui a moins de 30 grands prix. Enfin, qui a aujourd'hui 30 grands pris dans les godasses, que ça reste quand même un rookie, que c'est un mec qui a gagné un peu la surprise générale et qui se retrouve confronté à devoir porter à lui tout seul une équipe. Je pense que là le problème de Williams, c'est qu'ils ont strictement aucun leader et que voilà, que il y a un mec qui est obligé de prendre cette fonction de leader, sauf qu'il a pas la carrure pour. Enfin, lui il pense, je pense qu'il est convaincu d'avoir la carrure pour. C'est vrai qu'il fait des erreurs, qu'il les réédite, qu'il écoute strictement rien. Et c'est ce qui est le plus inquiétant pour Pastor Maldonado, c'est qu'il fait des erreurs et qu'il semble pas en apprendre grand chose. Je pense que tu mets un gros pilote à côté de lui, ça change strictement rien.
Allez, on va passer à une deuxième actu. Alors, quand vous allez voir la deuxième actu, il y en a qui vont râler quand ils vont voir les actus qu'on n'a pas pris. Alors Ben, tu as souligné James Key chez Toro Rosso.
Oui,
la suivante.
Non. En fait, bon. je l'ai mise parce que
c'était bien écrit comme article, je sais.
Non, même pas, parce qu'en fait, j'ai lu que le titre. Mais
non, je voulais dire, le titre est bien écrit.
Non, mais en fait, c'est parce que j'avais dans le souvenir que dans le dernier mag ou dans un des mags précédents, on avait souligné le fait que c'était quand même dommage de voir Toro Rosso complètement à la rue, justement, par rapport à Williams, par rapport à Force India, par rapport à Sauber, et que c'était dommage de pas donner les moyens à l'équipe de permettre à l'écurie d'avoir une voiture qui permette aux jeunes pilotes Red Bull de vraiment montrer ce qu'ils ont dans le ventre avant de pouvoir prétendre à un baquet chez Red Bull. Et là, bah, l'arrivée possible, d'ailleurs plus que probable apparemment de James Key, bah, pour moi c'est une bonne nouvelle parce que il a quand même été chez Force India, la voiture marchait pas mal, il a quitté Sauber pendant l'hiver pour des raisons personnelles apparemment. La voiture marche bien, donc bah, apparemment, ça semble être quelqu'un qui a quand même du talent et qui sait faire une voiture qui marche bien, qui va vite et qui est capable d'aller chercher les points. Donc pour Toro Rosso, ça me paraît une bonne recrue.
Est-ce que tu
irais jusqu'à... ça se confirme.
Est-ce que tu irais jusqu'à dire que c'est une personne clé?
Bah, en tout cas, au-delà de la vanne, c'est quand même quelqu'un qui a permis à Force India de faire des bons résultats, qui, ici encore avec Sauber, même s'il est plus là pour développer la voiture, a quand même été pour quelque chose dans sa réussite. Donc, oui, ça me semble être quelqu'un qui peut faire tourner les choses dans le bon sens, quoi. Moi, qui pourrait déverrouiller le potentiel de la voiture.
C'est joliment dit.
Moi, sincèrement, c'est quelqu'un dont j'ai plusieurs fois parlé dans le SAV et que je surveille de très près. J'étais vraiment déçu qu'il quitte la F1 pour aller en endurance. Bon, apparemment, il semblerait qu'en fait, ça fait pas mal de temps qu'il est en direction de Toro Rosso et que son départ de Sauber en début de saison était motivé par le fait que en fait il n'était pas véritablement directeur technique, enfin il n'avait pas toutes les largesses qu'il voulait, ce qu'il aurait là chez Toro Rosso et ce qu'il avait à l'époque chez Force India, et c'est vraiment quelqu'un, moi je trouve c'est vraiment l'un des ingénieurs de demain, là je vais pas dire la relève d'Adrian Newey, ça sert à lui mettre une énorme pression, mais je pense que c'est quelqu'un qui est capable de faire des voitures championnes du monde et qui est capable, un peu à l'image d'un Pat Fry par exemple, quelqu'un de pas forcément ultra créatif, mais qui à chaque fois a su faire des voitures au regard d'un objectif et de faire des voitures propres, qui fonctionnent bien, avec une marge d'évolution et qui ont jamais connu de véritable faiblesse de développement derrière.
Après, tu sais, on sait jamais, hein, quand, surtout, bon, il y a les changements de règlement, parfois, on sait bien qu'il y a une espèce de conjonction entre un concepteur et une réglementation.
Mais on a parlé de lui chez Ferrari, à un moment donné, dans la saison. Ferrari, il dit, non.
Écoute, si la Toro Rosso se met à remonter au classement, peut-être.
Bah, de toute façon, si, ça, c'est un bon ingénieur, mais, chez Ferrari, je pense qu'ils ont quand même des gens compétents et avoir plein de entre guillemets de stars, ça sert pas forcément à grand chose. Il suffit de regarder chez Mercedes. Hein.
Puis rajouter encore une pierre à l'édifice alors qu'ils sont déjà en pleine restructuration et que ça commence à peine à prendre, c'est pas.
Bah oui, parce que par rapport à la catastrophe annoncée de début de saison, ils s'en sortent quand même plus que pas mal. La voiture progresse, même si en Hongrie elle était un peu en deçà et que ça serait un peu plus le vrai niveau de la voiture, ça reste quand même pas mal aux mains d'Alonso.
Donc ils sont quand même loin du naufrage, quoi.
Eh bien... Des fois, je relis les commentaires de sur FanF1 de début d'année. Les gens, ils demandaient avant même les qualifs en Australie, ils demandaient la tête de Pat Fry, quoi.
Mais on a demandé la tête de Dominic Ali aussi.
Ouais.
Ça revient régulièrement. De toute façon, Dominic Ali, qu'il est là, tout le monde veut sa tête. Un Italien, c'est faire un risque.
Chaque début de saison, voilà, il y a deux mecs qui doivent sauter chez Ferrari, c'est Dominic Ali et Massa.
Ouais.
Tous les ans, ils doivent sauter.
Ils sont toujours là. Ouais.
Mais à noter, par contre, que alors chez Ferrari, il y a un poste à pourvoir qui a pas été pourvu depuis le début, c'est dans leur restructuration, c'est que aujourd'hui, apparemment, Pat Fry, il a à la fois la direction technique, mais il s'occupe aussi de toutes les opérations en piste. Et l'objectif, apparemment, il se murmure que Giorgio Ascanelli, qui était l'ancien, enfin qui est toujours directeur technique de chez Toro Rosso officiellement, puisqu'officiellement il est en vacances.
Oui.
Même si Daniel Ricciardo a laissé entendre qu'il y avait eu des explications et qu'il pourrait y avoir des changements dans les prochaines semaines. Mais apparemment, il serait question que Ascanelli, qui s'entend bien avec Pat Fry, prenne à plus ou moins long terme la direction des opérations piste chez Ferrari pour décharger un peu Pat Fry d'une partie du travail. Mais après, voilà, c'est l'avenir. Ça sert à rien de le griller. Qu'il soit directeur technique dans une, entre guillemets, une petite équipe, ça peut lui permettre, voilà, dans 5-6 ans, c'est comme ça qu'avait commencé, New Way, peut lui permettre dans 5-6 ans peut-être de se tourner vers une plus grosse équipe.
Oui.
S'il a des résultats.
Bien, puisqu'on a parlé de Ferrari, on va passer à la troisième actu. Avec cette actualité en forme de question, Vettel, Hamilton et Raikkonen pour priver Alonso du titre? C'est vrai qu'on arrive à la deuxième partie de saison, il a 40 points d'avance, et donc cette question, est-ce qu'on va vers une évidence, ou est-ce que ça ne va pas être aussi simple que prévu? Enfin, simple, entre guillemets,
évidemment. Bah, de toute façon, si on se dit que ni Vettel, ni Hamilton, ni Raikkonen ne peut aller chercher le titre, autant couronner Alonso tout de suite et partir en vacances.
Mais voilà. Justement, est-ce qu'il y a de l'espoir ou pas?
Il y a 8 points entre Weber qui est deuxième et Raikkonen qui est 5. Bah, donc, ils sont mathématiquement, il y en a plus que ça, mais c'est ces 4-là qui peuvent aller priver Alonso du titre.
Le problème, c'est que vu l'écart, il ne faut pas que les 3 ou les 4, si on inclut Raikkonen, ils se partagent les points entre eux et que Alonso fasse toujours 3e, 4e, 5e, parce qu'ils n'arriveront jamais à le rattraper.
Ouais. Mais Alonso va enfin moi ça c'est
faut
c'est
faire une deuxième partie de saison de folie hein, c'est déjà arrivé mais c'est
je voilà. Sais plus qui l'avait dit, je pense que c'est Christian Horner qui avait dit qu'il attendait que Alonso ait un coup de malchance et c'est pas possible que sur 20 courses il ait pas une course 100, tu vois. Enfin, ici il a quand même
en même temps il en est à je crois 22 courses de suite dans les points.
Il y a une ouais mais même s'il fait 10e, c'est quand même moyen quoi.
Oui, mais
ça fait 24 points, tu vois.
Je crois que statistiquement,
ça fait quand même...
le problème, c'est qu'il finit pas à 10e. C'est quand on dit qu'il est dans les points, c'est...
Mais ça va bien finir par s'arrêter, c'est pas possible.
Ouais, mais je crois qu'il
est désespéré, ce garçon.
Je crois qu'Eiffel avait fait 35 ou voire même 40 courses dans les points consécutivement, ou en tout cas à l'arrivée.
À l'arrivée.
C'est quel record, c'est Eiffel. Ça relativise un peu le record quand même. Hein. Mais non, blague à part.
Le record du nombre d'arrivées dans les points, c'est Schumacher qui l'a et il va être battu, je crois que c'est en Belgique ou en Italie, si bien sûr Alonso termine dans les points lors des deux prochaines courses.
Oui, à Eiffel, ce serait le nombre d'arrivées tout court. Alors.
Ouais.
Voilà. Mais enfin voilà, il y a toujours, en tout cas,
il est à chaque fois dans les points depuis le Canada.
La possibilité qu'Alonso ait une course entre guillemets 100.
Parce que, il faut le dire, voilà. il est toujours dans les points depuis le Canada 2011. depuis Canada 2011, il a fait que deux grands prix au-delà de la 5e place.
C'est Chine et Bahreïn. L'année dernière, c'était Mister 5, quoi. Il faisait quasiment
oui.
Le cinquième. Mais je pense que cette année, ça va dépendre de plusieurs choses. C'est-à-dire que, à la fois, ça va dépendre d'Alonso, ça va dépendre de ses rivaux,
et de
savoir s'il y a une équipe qui va être, il suffirait par exemple que Red Bull ou McLaren, on parle de McLaren pourrait déjà avoir le DRS duct là,
Lotus, c'est plus que prévu, hein. McLaren, ça reste un peu vague, mais Lotus, c'est clairement leur intention. Hein.
Lotus, McLaren, apparemment, ils ont annoncé qu'ils allaient le mettre ce week-end. Alors, on ne sait pas s'ils vont le mettre en course
ou s'ils vont l'essayer comme a fait Lotus 2-3 Grands Prix, mais ils ont déjà annoncé qu'ils l'auraient ce week-end. Donc voilà, après c'est, ça reste à voir. Mais bon, il suffirait qu'il y ait une équipe qui sorte du lot et qui vraiment s'inscrive sur le long terme jusqu'à la fin de la saison. Là, ça sera un problème pour Alonso. Si la situation reste comme le début de saison, il faudra plutôt regarder, c'est du côté de Button et du côté de Massa. Ce qu'il faut, c'est que c'est ce qu'a dit Brandl. Dans l'idéal, il faudrait que Massa arrive à prendre des points aux rivaux d'Alonso. Bon, ça fait 2 ans et demi qu'il n'arrive pas à le faire, donc voilà. Mais il y a un mec qu'il faudra regarder aussi, c'est Button. C'est-à-dire que si Button fait des bonnes courses ces prochaines semaines, c'est plutôt bon pour Alonso. S'il fait des courses moyennes, à un moment donné, il va devoir aider Hamilton. Et on sait très bien que là, par contre, Button, par rapport à Massa, lui, il sera en mesure, je pense, véritablement, de peut-être pouvoir prendre des points régulièrement à Weber, à Vettel, à Raikkonen, contrairement à ce que peut faire Massa.
Dans cette situation, c'est pas Red Bull qui risque d'être le plus embêté.
Ah, c'est Red Bull qui est de toute façon qui a la plus.
Parce que dans le sens où, bon, à partir du moment où on compte aussi, certains comptent aussi Raikkonen, on peut imaginer aussi que vu l'écart, Grosjean se met au service de Raikkonen si jamais ça, ça décolle enfin sur la deuxième partie. Mais on sait qu'entre Vettel et Weber, c'est plus complexe.
Grosjean, il est déjà au service de Raikkonen. Il l'a dit au début de saison. Il a dit, je suis numéro 2, priorité, c'est Raikkonen. Il a les meilleurs choix, il a les meilleurs réglages. C'est déjà le cas depuis le début de saison. Enfin, donc, on le voit en plus avec le DRS Doc. Enfin, là, ça fait 2 fois que c'est Raikkonen qui l'essaye et pas Grosjean. On peut peut-être se dire, ça donne peut-être un indice sur le fait qu'il est déjà privilégié, Raikkonen. C'est normal, c'est lui champion du monde en titre. Donc, enfin, lui champion du monde au sein de l'équipe.
Il est devant aussi, surtout.
Il peut quand même avoir quelques regrets, Raikkonen. S'il est devant, pas loin quand même finalement d'Alonso, avec il a quand même eu des passages, quelques passages à vide.
Et il a perdu des points, il a perdu quasiment 18 points.
Bah, déjà aussi, même par rapport au McLaren et au Red Bull. Être à 8 points d'écart alors qu'il a pas encore gagné, waouh.
Mais je pense qu'il a 5 podiums, c'est autant qu'un Hamilton, je pense.
Et Lotus, c'est l'équipe qui a le plus de podiums hein, cette saison. Ils ont 8 podiums.
Vettel en a 3.
Égalité avec McLaren.
Ah, égalité avec McLaren.
McLaren, ouais. Donc, bah oui, parce que Grosjean en a 3, c'est quand même pas mal.
Et ils ont pas de victoire.
Ils ont pas de victoire. Mais
ils sont quand même devant. Ils sont à 1 point seulement de McLaren. Quoi. Donc, si tu dis quand même.
Mais voilà, ils sont réguliers.
Voilà, s'ils arrivaient à taper des victoires un peu plus souvent, ça serait pas mal. Enfin, à taper des victoires, déjà, ça serait bien.
Mais ils vont gagner à Spa.
Il reste 9 courses. Bon, je vais mettre d'un côté Alonso et de l'autre tous les autres, parce que les autres sont qu'à 8 points. Non, mais tous les autres sont à 8 points, donc ça peut beaucoup bouger. Est-ce que d'après vous, en fin de saison, ça sera Alonso ou l'un des autres?
Ah ouais, attends, t'as vu le choix?
Demande à tout le monde.
T'as le choix entre 1 et 4 pilotes.
Bon, bah dans ce cas-là, est-ce que d'après vous, lequel des 5 sera champion?
Demande à Tomorrow News F1.
Non. Il y aura pas
je propose une minute de silence. Non, moi, enfin, si je laisse le côté très très fan, je vais dire que j'aimerais que ce soit Raikkonen, mais.
Eh ben moi aussi.
Mais ça me paraît, enfin, je sais pas. J'ai l'impression que ça va quand même être compliqué. Maintenant, celui qui est le mieux placé pour aller chercher Alonso, c'est Weber au classement. Et honnêtement, si je devais vraiment dire quelqu'un outre Raikkonen, ce serait Weber, parce que d'abord, il a pas encore été. Parce que il a fait une belle saison en 2010, qu'il a pas forcément été totalement soutenu par son équipe. En 2011, il a eu un peu de mal, c'est rien de le dire. Il était un peu transparent. Disons qu'il était bien effacé par Vettel. Et que cette année, il refait une belle saison. Il a même fait un meilleur début de saison que Vettel. Ici, les écarts sont très faibles entre les deux. 2 points, je pense, de mémoire. 2 points. Donc ça va être compliqué pour lui. Il faut absolument plus que... non seulement il faut qu'il se rapproche d'Alonso, mais il faut qu'en plus il reste aussi devant Vettel. Oui. Parce que sinon il n'aura jamais le soutien de son écurie et voilà, ce sera parce que si Vettel passe ne fût-ce qu'un tout petit peu devant, je pense que Red Bull aura vite fait son choix. Alors qu'ici, si l'écart est faible à l'avantage de Weber, ils vont attendre un petit peu.
Mais c'est pour ça que je pense que les mieux armés, c'est Hamilton et Raikkonen.
Ouais, voilà, je mettrai une pièce sur Hamilton. Moi,
je pense qu'aujourd'hui, la plus grosse menace, c'est Hamilton. Raikkonen est inquiétant sur son rythme des dernières... Enfin, inquiétant pour Alonso. Hein.
Oui.
Sur son rythme. Je pense sincèrement que Alonso, pour le moment,
en gérant bien la fin de saison. Il a montré par le passé qu'il était plutôt bon sur les derniers Grands Prix. Faudra voir comment va évoluer la Ferrari. Faut aussi tenir compte du fait que Ferrari va faire des tests au mois de septembre avec Mercedes et Force India, ce que ne feront pas ses rivales. Donc ils vont pouvoir peut-être tester des nouveautés et compagnie, et apporter des nouveautés, pourquoi pas un double DRS et compagnie, qu'ils auront testé à Manicourt au mois de septembre. Donc moi je pense que c'est quand même bien, pour le moment c'est bien parti pour Alonso, si ça reste sérieux et que la voiture est performante et que derrière ça change pas trop en termes de situation, je pense que c'est bien parti pour Alonso. Après, si vraiment faut trouver des menaces, pour moi ça jouera entre Alonso et Hamilton, et je mettrai derrière Raikkonen et Vettel, voilà, je crois pas du tout en Weber.
Juste pareil que Dino, donc.
Oui, pareil que Dino. Ouais.
Et toi, Shinji ?
Moi, bon, le cœur me dit Raikkonen, bien évidemment, même si je me dis...
Qu'est-ce qu'il dit ?
Même si je me dis que s'il y a le déclic, il est capable, il l'a fait, de faire une deuxième saison, une deuxième partie de saison vraiment de dingue, et revenir. Après, je pense aussi à Alonso, parce qu'il a des points d'avance, que ça risque en effet de beaucoup se partager entre les autres. Il aura peut-être pas autant d'écart à la fin de saison, mais il lui restera sans doute un petit peu de son matelas pour être champion.
Mais Raikkonen, sur les 4 dernières courses, il fait 3 podiums. Le malheur, c'est que Alonso aussi, et il est devant. Donc sur les 4 dernières courses, Raikkonen n'a pris que 8 points.
Voilà.
Donc il fait super régulier, tous les deux. Et d'ailleurs, la seule fois où ils ont pas été sur le podium, ils ont marqué 10 points chacun. C'était en Angleterre pour Raikkonen et en Hongrie pour Alonso. Mais voilà, donc ils font 3 podiums sur les 4 dernières courses, mais Alonso est chaque fois devant, quoi, pour Raikkonen.
Ça serait peut-être une idée de sondage, si jamais on n'a pas d'actu qui se distingue, de justement demander qui pourrait être champion en fin de saison.
Parmi les 5 premiers, parce qu'on est d'accord quand même que Rosberg quand... est à 77 points.
Mais même quand je vois Button qui dit qu'il y croit encore, enfin c'est oui, mathématiquement, mais il faudrait non seulement qu'Alonso ait des courses sans, et que lui ait des courses avec plus, quoi, tu vois.
Et que les autres aussi aient des courses en. C'est-à-dire que derrière, oui, voilà, c'est toujours la même problématique. C'est, faut d'abord qu'Alonso se casse la gueule. Et ensuite, faut derrière, les 5 autres derrière, les 4 autres derrière, ça se passe pas bien.
Ah oui.
Et il est en train de se battre avec Rosberg et Grosjean.
C'est un peu mort.
Ce qu'on peut proposer comme sondage, c'est mettre les 5 premiers et mettre une 6e entrée, un des autres.
Ouais.
Ça,
ouais. Mais en même temps,
si quelqu'un a envie de dire oui, je pense que Grosjean, Kobayashi ou Kartike, voilà.
En même temps, les autres, ce serait Rosberg, Button, Grosjean. Rosberg, oui. Si tu prends les 4 dernières courses, 8 points, pas de points, 1 point, 1 point. Grosjean, de toute façon, ce sera Raikkonen. Et puis, honnêtement, pour Grosjean, c'est quand même pas plus mal, parce que se mettre dans la lutte pour le titre pour sa première saison, c'est quand même une pression qu'il a pas.
Il est déjà bien.
Globalement, il fait une belle saison.
Oui.
Quand tu te retrouves classé t'as le même nombre de points qu'un type comme Button, et que t'as un point de moins qu'un type comme Rosberg, c'est quand même une belle expérience. C'est quand même pas mal pour.
Non, mais tu peux faire ça, 6 entrées, les 5 premiers, puis une 6e entrée.
Puis une 6e entrée, les autres.
Quoi. Voilà.
Même si, pour
mais en même temps, il y a aussi un truc qui joue en faveur d'Alonso, c'est que, bon, Ferrari, le titre constructeur, il le joue plus. Red Bull, ils sont devant. Mais il y a deux équipes qui vont se batailler, et ce qui va faire que, et en plus, qui au classement se retrouvent, il y a deux pilotes qui se retrouvent à chaque fois ensemble, c'est McLaren et Lotus,
oui,
qui sont à un point au constructeur, en sachant que t'as Button et Grosjean qui sont ex aequo pour le moment, et un peu plus devant, t'as Raikkonen et Hamilton, où Raikkonen, il est qu'à un point d'Hamilton. Donc, tu te dis, il y a quand même, pour ces deux équipes-là, un enjeu supplémentaire que n'a pas Ferrari. C'est que Ferrari, leur stratégie jusqu'à la fin de saison, c'est tout miser sur Alonso. Voilà, on fait tout pour Alonso, et c'est tout. Là où les autres, ils ont quand même à la fois, pour le moment, de se dire, bon, on joue sur deux tableaux. Donc quand tu joues sur deux tableaux, c'est toujours un peu plus difficile que quand tu joues que sur un seul tableau.
Après, il y a aussi quand même une bonne hiérarchie dans chacune de ces équipes au niveau des résultats. Donc,
oui, et puis à mon avis, si, sincèrement, si le titre pilote est jouable, le constructeur, ils vont peut-être je vais pas dire qu'ils vont le laisser tomber, mais à choisir entre deux, ils choisiront le pilote. Hein. C'est celui qui reste.
En ce qui concerne McLaren, par exemple, ou même en ce qui concerne Lotus, s'ils voient qu'ils ont la possibilité d'être plutôt pas mal au classement constructeur, quand on sait aussi ce que ça rapporte, faut quand même rappeler que l'argent se fait sur le classement constructeur, que c'est, je crois, 20 millions en ce moment, de le point qui sépare Lotus et McLaren, il vaut 20 millions d'euros. Pour Lotus, 20 millions d'euros, ils ont pas l'intention de s'asseoir dessus. Donc, quand tu prends surtout, c'est pas trop la hiérarchie, elle est dans les équipes, pour moi, elle va pas changer. Mais c'est surtout le fait que, en plus d'être à couteau tiré au classement constructeur, il se trouve que les pilotes numéro 1 et pilotes numéro 2, ils sont eux-mêmes à couteau tiré au classement pilote. Donc, tout ça peut faire que, Yates par exemple, Button se regarde un peu trop Grosjean et que du coup dans l'écurie McLaren, on se dise on va peut-être pas demander à Button de jouer pour Hamilton parce qu'il suffirait que ça le démoralise, il perdra des points sur Grosjean ou l'inverse, par exemple chez Lotus, on demande à Grosjean de jouer pour Raikkonen et que Grosjean est un peu démoralisé, il finisse la saison en roue libre et c'est le classement constructeur qui part en couille. Donc je pense que voilà, il y a cette donnée-là en plus qui peut jouer aussi en faveur d'Alonso.
Allez, on va passer à la quatrième actu et on va parler avenir, mais on va pas parler 2013, on va parler 2014. Parce qu'on a eu quelques actus. Alors, celle qui a vraiment été retenue, c'est Wismarsch qui s'est prononcé contre une équivalence. Parce qu'en effet, par rapport au prix, notamment pour les châssis clients, hein, toutes les équipes clientes, il se dit que peut-être il pourrait y avoir une survivance des V8. Donc, Wismarsch dit pourquoi pas, mais il faut pas qu'il y ait des qualités. Et on a aussi eu quelques autres actus hein, qu'on peut aussi mettre ensemble, hein, notamment le V6 Ferrari qui a été annoncé, hein, il est passé au banc. Les autres, hein, je crois, le Mercedes et le Renault, ça a aussi été annoncé, ou ça va
alors,
se faire.
Renault, ils ont dit au mois de juin que ça allait se faire dans les prochaines semaines, donc théoriquement, normalement, c'est fait. Et Mercedes, ils avaient dit au mois de décembre que c'était imminent. Alors maintenant, j'ai pas souvenir de qu'ils aient annoncé, qu'ils aient dit officiellement, ça y est, le moteur, il est passé sur le banc.
De toute façon,
mais normalement, c'est fait. Vous voilà. Pensez que c'est fait.
Et on peut aussi raccrocher une autre actu qui est aussi un peu liée, c'est Adrian Newey qui a parlé des règlements, notamment de 2012 et 2014, et donc forcément, ça touche au V6. Voilà, c'est un peu tout l'ensemble des actus qui ont touché le V6 turbo.
Alors là, j'avais cité celle sur Ferrari. Parce que justement, c'était on avait beaucoup parlé dans l'actu moteur 2014 Mercedes et Renault, et on n'entendait pas trop parler de Ferrari. Donc c'était pour souligner que voilà, eux aussi ils avancent. on se doutait bien qu'ils avançaient, mais c'est vrai qu'on n'en parlait pas beaucoup. Et voilà, ils reviennent discrètement, ils disent quand même que voilà, on a bossé aussi et on est globalement ils sont tous au même niveau.
Chacun, de toute façon,
il n'y a pas de retard.
Même ceux qui n'ont pas forcément les V6 actuellement au banc, si c'est le cas, ils ont de toute façon une version avec un seul cylindre dans laquelle ils peuvent simuler déjà des trucs qui seront dans le V6 avant de multiplier par 6 quoi.
Non, mais tu peux déjà faire pas mal de trucs à mon avis sur le banc et c'est bien aussi de se dire que par rapport à la concurrence, t'es quand même pas. Parce que quand tu vois la fiabilité actuelle des moteurs, ce sera aussi une des clés. Ce sera la fiabilité.
C'est vrai.
Parce que Newey dit ce sera un championnat de motoristes au niveau de la performance, peut-être, il n'a pas forcément tort, mais ce sera aussi au niveau de la fiabilité, puisque ce sera un tout nouveau bloc, avec toute nouvelle architecture, etc. Donc,
Surtout si la FIA confirme la réduction des quotas à 5 moteurs, je crois.
Je ne sais plus bien combien ils sont, ce serait peut-être bien 5. Oui. Mais c'est prévu, donc il faut déjà y penser pour 2014, quoi. Parce que globalement,
par rapport au règlement, on va peut-être pas, je sais pas, s'étendre. Je sais pas, Gus, t'as une des questions, t'avais l'intention d'y répondre plus profondément sur ça ou pas?
Oui, j'avais une réponse.
Ouais. Non, parce que je veux dire, c'est peut-être pas besoin d'en parler maintenant dans l'émission si on en parle après, tu vois.
Bah, ça dépend d'autres questions, parce que ça, c'est une question. C'était plus une question sur les quotas et sur le gel, donc s'il y a d'autres choses à parler, on peut parler.
Mais sinon,
notamment sur le fait voilà que 2014 serait donc plus tourné vers un championnat entre guillemets de motoristes par rapport à l'aéro.
Oui. Hein? Ça personnellement c'est quelque chose que je trouve bien parce que honnêtement la transposition de l'aéro sur les voitures de série c'est pas disons que sur les voitures de série, on met pas d'aileron, on met pas de trucs comme ça qui permettent de générer d'appui parce qu'on en a pas forcément besoin. Donc moi je vois ça d'un bon œil qu'on revienne.
Ça se fait, mais c'est sur des gros calibres.
Voilà, c'est pas sur les voitures.
C'est la F12 Berlinetta qui a un diffuseur arrière. Bon bah oui, c'est bien.
Oui.
Je crois qu'il y a des voitures maintenant qui ont des DRS. Bon,
et puis des
cars,
voilà.
Mais bon, voilà, c'est des voitures déjà de haute performance. C'est pas la voiture de Monsieur Tout le Monde. Quoi.
Voilà, donc qu'on revienne sur un championnat plus centré sur le moteur. Alors peut-être que ça réduira le travail des écuries. Mais vu qu'on a que 3 moteurs, il faudra quand même faire la différence dans les écuries qui ont le même moteur. Et surtout, oui, ça redonnerait, à mon avis, à la F1, le rôle de prescripteur de technologie, ça le ramènerait au niveau du Mans, quoi.
Alors même que le Mans va passer à une nouvelle réglementation beaucoup plus ouverte et où il y aura sans doute énormément d'innovations en matière de motorisation.
De toute façon, c'est au niveau du moteur que tu t'achètes une image verte, entre guillemets.
Oui.
Et maintenant sur le fait que Niue soit un peu frustré, c'est clair que c'est pas lui qui va dessiner le moteur, donc ça peut se comprendre. Maintenant, pour le spectateur lambda, sincèrement, ça va pas changer en soi grand chose. La seule différence, c'est qu'au lieu d'avoir la voiture qui a la meilleure aéro qui gagne, bah, ce sera peut-être celle qui a le meilleur moteur, mais il y a de toute façon toujours un truc qui fait que t'es devant l'autre. Donc
puis
actuellement c'est sur l'aéro.
Quand on voit tous les trucs qui ont été pondus dans l'aéro, parfois bien, mais parfois des trucs très tordus. Si on a des voitures 2014 peut-être plus simples aérodynamiquement, c'est peut-être pas forcément un mal pour l'image de la F1. Hein.
Mais justement, le règlement va être plus restrictif encore. Ça va être encore pour les ingénieurs, c'est un truc que je dis souvent, un moyen de se creuser la tête et de trouver de nouvelles solutions. Alors qu'effectivement pour les voitures de série ça sert à rien, mais pour la compétition, ben ça sera transposable. Tout ce qui est F-duct, double diffuseur, machin, ça a aucun débouché sur une voiture de série.
Mais et c'est même en termes de moteur. Quand on voit ce qu'ils ont réussi à faire avec les échappements soufflés avec un moteur atmosphérique,
oui.
Est-ce que les mecs vont pas se dire, tiens, est-ce qu'on peut pas essayer de restituer ça avec un turbo, essayer de trouver une manière pour utiliser le moteur turbo? On voit c'est pas parce que Renault avait ils ont pas gagné parce qu'il avait le moteur, parce que c'est ceux qui l'utilisent le mieux aujourd'hui, leur moteur, en termes de consommation, en termes de d'utilisation aussi du soufflage, c'est ceux qui ont le plus travaillé, donc c'est pas forcément,
ça serait
partir sur le fait qu'avec
Parce que meilleur moteur, faut pas forcément dire le plus puissant, hein. Regarde le Mercedes.
Ah non. Ouais. Ah bah oui. Ces dernières années.
Apparemment, c'est assez dur avec les pneus Pirelli. Ce serait une des raisons pour lesquelles, en tout cas, Mercedes serait particulièrement l'écurie particulièrement.
On se souvient des Mercedes, des moteurs BMW, même un peu des Toyota qui étaient parfois puissants, mais qui n'avaient pas forcément la souplesse d'exploitation d'un Renault.
Bah oui. Moi, on se souvient de la grande époque avec Williams où il y avait les moteurs Calif où ils sortaient des bazars. Tu savais dès le départ, après les qualifications, que le lendemain, ils allaient pas pouvoir tenir le rythme, quoi. Ils avaient leur moteur qualif, qui tenait 3 tours au 4ème pété, et qu'en course, bah, ça allait être une toute autre histoire.
Et sinon, sur la question des équivalences, est-ce que déjà c'est une bonne idée de garder, on suppose surtout que ça risque d'être plutôt des véhicules de fin de peloton, de garder des V8? Et d'essayer de faire des équivalences.
Je comprends pas l'équivalence, en fait. Je vois pas l'intérêt.
Et Wismart, il va plus loin. C'est que non seulement il veut pas d'équivalence, mais il dit si jamais certaines équipes gardent des V8, il veut que les V8 soient pénalisés par rapport aux efforts que eux ont fait, justement, pour mettre en place ces V6 turbo. Voilà. Carrément.
Non, mais c'est financier. C'est comme en 2010, non, pas en 2010, quand 2010. On est passé du V10 au V8. Toro Rosso a roulé pendant un an avec un V10. Ils avaient récupéré l'autorisation qui avait été faite à Minardi pour des questions financières. D'ailleurs, la question s'était posée quand Matoschitz a racheté Minardi pour en faire Toro Rosso. Est-ce que la contrainte financière tient toujours par rapport à une société Red Bull qui a quand même de l'argent dans son portefeuille et qui s'offre une deuxième écurie puisqu'elle avait déjà racheté Jaguar?
Après, sportivement, ça a rien changé.
Après, il y avait le V10, c'était bridé, donc il y avait même au niveau de la prise d'air.
La prise d'air, oui.
Au-dessus, qui était
un restricteur.
Pour que le V10 soit pas plus performant que le V8. Et ton Rosso n'a pas fait une saison particulièrement.
Moi, personnellement, j'arrive pas à garder un
souvenir mémorable de 2006, quoi.
Personnellement, j'arrive pas à comprendre d'où sort ce débat. Enfin, j'ai l'impression que Whitmarsh, encore une fois, il balance un truc, il ouvre un débat, il donne son opinion sur un débat qu'on n'était même pas au courant qu'il existait. Le débat sur les usines, et là, le débat sur les équivalences. Enfin, moi, je vois même pas aujourd'hui qui pourrait demander une équivalence. Je vois pas l'intérêt de l'équivalence.
Mais financier, parce que le moteur risque de coûter cher.
Oui, non, mais.
Les petites écuries, parce que s'il y a équivalence, ce sera à cherté.
Oui, mais ça leur coûtera quand même cher d'avoir un moteur normal. Enfin, c'est-à-dire que, on est bien d'accord qu'aujourd'hui, les moteurs qu'ils ont, sauf si Cosworth reste, mais, imaginons Toro Rosso, ils vont garder leur V8 bridé Ferrari, qui vont payer à un certain prix, alors que Ferrari, ils auront déjà produit leur V6 turbo Voilà, ça veut dire que Ferrari, qu'est-ce qu'ils vont se dire? Ils vont dire, bah, non, Ferrari vont être obligés de continuer de construire des V8 juste pour Toro Rosso. Ferrari, ils vont les vendre le même prix? Bah non, Ferrari va les vendre les plus chers. C'est un produit qui va intéresser que Toro Rosso. Je pense que naturellement, toutes les équipes, si derrière il y a un constructeur, c'est pour ça aussi que les constructeurs, ils ambitionnent de d'avoir le plus de trucs possible. C'est pour répartir les coûts sur le plus d'équipes possible. Mais enfin, moi, je pense que aujourd'hui, une petite équipe Toro Rosso, Force India et compagnie, ils vont pas se dire on va prendre un V8 bridé en sachant que bah ils vont sans doute y perdre, qu'ils seront pénalisés derrière soit financièrement soit sportivement et que bah finalement en termes de coûts ça risquerait peut-être même de leur coûter plus cher puisqu'ils participeront pas au moteur turbo, que donc du coup si on prend l'exemple de Ferrari de Toro Rosso, Ferrari vendant moins de moteurs turbo va entre guillemets moins rentrer dans ses frais, donc voudra plus les répercuter, ils vont les répercuter sur qui? Sur Toro Rosso et sur le moteur V8 qui les fera chier. Ils vont dire à Toro Rosso, vous le voulez, vous le gardez, d'accord, mais nous, ça nous fait chier de le produire. On vous propose le V6, mais franchement, le V8, ça nous fait chier de le produire. Vous le voulez, on vous le vend. Mais on vous le vend au double prix, quoi.
De toute façon, en l'état, le règlement technique, il prévoit pas de...
Tu cites Toro Rosso, mais à mon avis, c'est pas une de ces équipes-là qui seront concernées.
Oui,
c'est imagine qu'on accepte
même
l'équivalence.
Ça risque même d'être parce que l'aéro va suivre l'évolution du moteur. On sait que le moteur, il est plus compact. La répartition des masses sera pas forcément identique. Il va être lié à un système de récupération d'énergie. Donc, oui. L'aéro va être complètement différente. Elle va quand même changer.
Ça paraît compliqué, oui. Mais...
Donc, foutre un V8, entre guillemets, de conception ancienne dans une voiture qui, forcément, devra suivre la nouvelle réglementation, ça risque d'être zarbe, quand même, comme greffe. Hein.
Mais pour ce qui est de l'aspect financier, par rapport aux petites écuries, elle pourrait, pourquoi pas, envisager carrément, de, pendant un an, conserver encore leur bloc Cosworth. On pense à HRT, on pense à Marussia... Elles pourraient garder leur V8 Cosworth, même bridé, ce qui leur reviendrait moins cher que d'acheter un V6.
Oui, mais elle paye
une autre écurie qui va quand même devoir rentrer dans ses frais et qui vendra forcément son V6 plus cher que ce qu'elle ne vendait le V8 l'année d'avant.
Mais pas forcément.
Oui, mais si HRT va, par exemple, voir Renault et leur dire, les gars, on voudrait bien votre V6 Turbo pour l'année prochaine, pour 2014. À mon avis, le prix du V6 Turbo sera quand même, à mon avis, priori plus important que ce que le V8 de l'année d'avant, puisque l'investissement aurait été fait sur le V6. Le V8, il n'y a plus grand chose comme investissement de fait.
Oui, parce
y a
que
les productions, parce qu'il faut le construire.
Oui, mais elle coûte en l'état aujourd'hui, c'est plutôt Renault. C'est pas tant. En fait, aujourd'hui, les HRT et compagnie, finalement, c'est pas elles qui vont chercher les moteurs, c'est plutôt les motoristes. Et on sait que Renault, leur ambition, c'est d'avoir, je crois que c'est Whitmarsh qui dit, Renault, ils veulent 7 écuries. Renault, leur intérêt aujourd'hui, ils l'ont déjà dit plusieurs fois, c'est d'avoir le plus d'équipes possible pour justement proposer le prix du moteur le plus faible et derrière s'ouvrir à HRT et Marussia par exemple en proposant le moteur Renault, tu as deux partenaires de plus, donc tu peux davantage répartir les frais de développement etc entre entre tes six équipes motorisées. C'est là où je pense derrière que bien sûr ce sera peut-être aussi plus cher, mais derrière c'est aussi un investissement. C'est-à-dire que quel intérêt ils vont avoir à rester avec un moteur Cosworth où ça serait bien qu'ils vont rester au fond, ou alors enfin sincèrement moi je vois pas l'intérêt d'autoriser des équipes qui dont le seul but ça sera de se dire on va survivre au fond de peloton.
Bah HRT, voilà. Marussia, c'est globalement ce qu'elles font déjà depuis 3 ans.
C'est,
hein.
Non, c'est, non,
on est bien d'accord.
Non, on est bien d'accord que c'est globalement ce qu'elles font, mais elles le font pas sur une. Elles ont la donne technique, elle est la même pour tout le monde. Ils ont tous des V8 et compagnie. Là, ça serait autoriser une équipe à avoir un V8 en leur disant vos V8 bridés, vous pourrez pas faire mieux qu'un moteur turbo. Donc c'est grosso modo les condamner au fond de peloton. Là aujourd'hui, elles le sont condamnées par la force des choses, mais pas parce qu'il y a un truc, c'est pas à cause du moteur ou à cause d'un truc, c'est juste un manque de fonds et compagnie. Là, s'ils le font, ça serait juste de dire, voilà, techniquement, il y a un championnat V8, championnat des deux équipes du fond, et un championnat V6, et les V8 seront forcément au fond de grille. Donc, voilà, moi, je pense que autant pour la FIA se dire, on se débarrasse des deux équipes, quoi. C'est autant dire, voilà, elle dégage, quoi. Peut-être pour ça aussi, je pense qu'il y aura certainement pas d'équivalence dans la mesure où ça sera pour la FIA justement un moyen de se débarrasser d'une ou deux équipes qui, pour le moment, les font relativement chier.
On va passer à la dernière actu, messieurs. Et ça a été le mini scandale hein, qui a éclaté. Hein. Il y a eu un mini scandale.
Ouais. Hein.
Moi, je l'ai même pas cité. Je l'ai même pas cité. Je me suis dit.
Tu voulais pas te faire de pub.
Mais non, mais même pas. Je me suis dit.
Peut-être qu'il s'estime illégitime pour en parler.
Oui.
Non, d'ailleurs, je ne fais aucun commentaire dans le bas de l'article. Des articles.
Nelson Piquet Jr. donc qui au détour d'une interview n'a pas hésité à balancer à la fois sur Grosjean. Bon, ça, on peut comprendre. Mais aussi. Certains diront que ça n'est pas étonnant, vu que c'est un piqué sur Senna.
Mais sur Raikkonen aussi, un petit peu.
Et sur Raikkonen, indirectement, oui, sur Raikkonen.
Et pour être tout à fait franc, j'ai vu l'info sur Grosjean et les gratinures sur Raikkonen, et je me suis dit, ouais, ça sert vraiment à rien d'en parler, c'est, entre guillemets...
T'as quand même fait un article.
Un peu d'aigreur, etc. Puis un jour ou deux après, je vois... Piquet s'en prend à Senna. Ouais, je me dis d'accord, il attaque Bruno. C'est le seul brésilien sur la grille. Non, non, Ayrton. Je me dis là, on tient un trio gagnant. Donc, on va faire un petit truc. Je tape mon article.
Ce que j'adore, c'est tu dis ouais, Bruno Senna, c'est le seul brésilien sur la grille, quoi.
Bah oui. Ils ont qu'une voiture chez Ferrari. Pour
c'est vrai qu'il y a massage. J'avais complètement oublié. Ce morceau sera coupé au montage.
Non, non, il sera laissé. Ça, il sera très bien.
Mais donc je fais mon article et le lendemain, Nelson Piquet Jr. fait oui, oui, non, les journalistes, ils ont déformé tout ce que j'ai dit. J'ai pas dit que Senna aurait été nul à notre époque. Non, non, je dis qu'il aurait été nul avant.
Oui, parce que son explication, elle est super tordue quand même. Hein. Il explique que si Senna avait été 10 ans plus tôt, parce que son père, il était en F1 10 ans plus tôt, dans ses explications, c'est très fouillis quand même, hein, ce qu'il dit.
Même au-delà du simple fait que, bon, on s'est trompé de décennies. C'est le côté, sur la fin, de toute façon, chaque époque a ses spécificités et nécessite des qualités spécifiques.
Oui, enfin, ça n'interdit pas
dans ce cas-là,
débat.
Tu vois?
Je pense que là où est le problème, c'est de comparer des époques en prétendant qu'il y aurait une époque de Nelson Piquet et une époque d'Ayrton Senna.
Oui.
On sait très bien
c'est
que
c'est les mêmes.
Voilà, c'est les mêmes. Enfin, Ayrton Senna, il a commencé en 84, Piquet, il était deux fois champion, et il a eu un autre titre en 86. Donc voilà, ça se croise, c'est-à-dire que c'est la fin de l'époque Piquet, c'est le début de l'époque Senna. Je pense que surtout là où il faut qu'il parle, c'est en termes de titres. C'est vrai que Piquet a été champion à une époque où il n'avait pas forcément tout le temps eu la meilleure voiture, où les championnats étaient peut-être un peu plus disputés, où il y avait l'ère du turbo et compagnie. Là où il faut quand même reconnaître que Senna, par son talent, mais aussi parce qu'il était dans une écurie qui a dominé la Formule 1 pendant des années.
Ah, parce que Senna, il n'a pas eu d'opposition sur ses titres.
Non, c'est pas ce que je suis en train de dire, Shinji. Une opposition interne n'est pas la même chose qu'une opposition entre plusieurs écuries et compagnies. Là où Piquet dit des conneries, c'est qu'il a quand même été chez Tolman et chez Lotus, où il a aidé à développer des voitures, il a fait des pôles et des victoires avec ces voitures-là. Donc ça montre aussi la valeur de Senna. Mais quand on compare, j'ai un peu l'impression des fois que quand on compare l'époque de Senna, à Senna c'est le dieu divin qu'on peut pas du tout toucher. Alors il se trouve que malheureusement c'est Nelson Piquet qui est le mec qui devrait fermer sa gueule parce qu'il s'est foutu dans le mur. Donc c'est Nelson Piquet qui parle. Donc il ose toucher à l'idole, automatiquement ça devient... voilà, il est totalement discrédité. Moi, c'est ce que je trouve un peu injuste, quoi. C'est qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que dès qu'on parle de Senna, on peut plus avoir de débat. C'est-à-dire que le débat sur Senna, il n'existe plus. Et ce pauvre garçon, parce que j'ai envie de défendre un peu Piquet, ce pauvre garçon, qu'on partage ou pas son opinion, il ouvre un débat et que, bah, finalement, derrière, qu'est-ce qu'on lui reproche? Bah, que c'est le fils de son père, que, donc, du coup, il est pas neutre, que, il s'est foutu dans le mur, qu'il a pas de palmarès, que, oui, à un moment donné, on peut peut-être aussi se pencher sur ce qu'il dit au fond et se dire, bah, finalement, dans le fond, dans ce qu'il dit, il l'exprime peut-être mal, il se trompe peut-être parfois d'arguments, mais dans le fond, il a peut-être pas forcément tort. Peut-être que Senna a eu les choses un peu plus faciles que Piquet. C'est pas forcément faire injure à Senna que de reconnaître qu'il a eu, en tout cas dans sa période de grand succès, bah il a eu aussi une très bonne machine et qu'il a bénéficié d'une période où son seul rival c'était son coéquipier.
Après sur le côté, qu'est-ce que ferait Senna aujourd'hui? La question se pose même pas quoi.
Aujourd'hui.
De toute façon, à l'âge qu'il aurait, il ferait plus grand-chose. Mais.
Oui, non. Mais...
Mais non, mais ici c'est vrai que voilà. Ça s'emballe un peu parce que c'est bon. D'abord, c'est vrai qu'il y a on peut pas toucher. Je pense que c'est pareil pour
non, mais
le champion.
Ça
n'est pas époques, systématiquement c'est... à Senna, mais ça vient aussi du fait que c'est Piquet Junior.
Il y a même pas de questionnement. Je veux dire, peut-être que Piquet a raison. Hein. Peut-être que Senna dans une voiture aujourd'hui serait que dalle.
Mais peut-être qu'il serait.
Mais en même temps, ce sont deux époques complètement différentes.
Mais de toute façon, tous les grands champions, même les pilotes.
On est bien d'accord. On est bien d'accord que ce sont deux époques différentes. Maintenant, on peut pas non plus s'interdire le débat, sinon on discuterait jamais de rien. Enfin, on a longtemps fait la comparaison, on a longtemps eu des débats. Enfin, l'un des grands débats qui anime la F1, c'est qui est le plus grand champion de l'histoire. Automatiquement,
oui, mais ça n'a pas de sens.
Oui, on est bien d'accord que ça n'a pas de sens. Mais ça n'empêche pas derrière quand même de discuter du fond. Il suffit pas juste de dire ça n'a pas de sens. N'en discutons pas. C'est aussi le problème, je trouve que voilà, c'est l'argument, c'est de dire on devrait même pas en parler puisque au final ça n'a pas de sens. Mais oui, indirectement, ça a un sens. Que ferait Senna aujourd'hui sur une Formule 1 moderne? Moi, je trouve la question relativement pertinente. Effectivement, qu'est-ce qu'il ferait? Ça amène aussi à s'interroger. Mais moi, je te dis pas que j'ai la réponse. Je n'étais pas témoin de cette époque-là. Je n'étais pas du tout intéressé à la Formule 1 à cette époque-là. Maintenant, moi, je serais curieux d'avoir des gens qui étaient témoins à l'époque, quand on regardait les Grands Prix, qui diraient, écoutez, justement, Senna à l'époque, c'était quelqu'un. On le sait, par exemple, au regard de Williams, qu'il n'était pas forcément à l'aise avec l'électronique. Il aimait bien avoir une prise directe sur sa voiture, sentir sa voiture. Peut-être que les Formule 1 modernes, peut-être un peu plus les Formule 1 depuis 2008. Mais celles d'avant, peut-être qu'il les aurait pas du tout aimé, les 2005, peut-être qu'il aurait pas du tout aimé, qu'il aurait pas été bien dans cette voiture. Peut-être au contraire qu'il serait un peu mieux dans les Formule 1 d'aujourd'hui. Voilà, moi ce que je regrette, c'est que automatiquement, quand c'est Senna, déjà il n'y a pas de débat, et ensuite parce que soi-disant c'est un débat qui à la fin n'a pas de réponse logique et que on saura pas, c'est sûr, on peut pas mettre Senna aujourd'hui dans une voiture et savoir ce qu'il a. C'est une question qui n'a pas de réponse. Mais c'est pas parce qu'une question n'a pas de réponse qu'on doit s'interdire d'y réfléchir. Et je trouve que voilà, c'est toujours un peu embêtant on est face à des débats qui sont des débats existentiels. Enfin, moi le débat Fangio, Schumacher ou Senna comme le plus grand champion, quand on me répond on peut pas comparer, pas les mêmes époques, ça serait intéressant quand même de savoir ce que pourrait faire Fangio dans la McLaren de Senna. On le saura jamais, mais on a quand même des éléments de réponse qui pourraient nous aider à supposer. En sachant bien derrière qu'on n'aura pas la réalité absolue. Elle ne peut pas exister, la réalité absolue, c'est pas possible. Donc c'est sûr que ce mec-là, je pense que Piquet, je sais pas si c'était calculé, mais il a super bien calculé son coup. Quoi. Si vous voulez qu'on parle de lui, c'était le bon truc. C'est lui qui parle de Senna, c'est nickel.
Oui, comme j'ai dit, qui cible le Senna, c'est pas non plus étonnant. C'est quand même le fils de son père. Voilà.
Il a fait des déclarations sur Fittipaldi aussi, mais c'était pas...
Voilà, on peut aussi revenir le fait qu'il est brésilien. Pourquoi forcément que c'est le fils de son père? Il est peut-être aussi brésilien. Il a peut-être aussi envie par rapport aux Brésiliens.
Ouais, donc l'un est
fils de son père parce que Piquet Senior est aussi une langue de pute. Hein,
C'est le fils de son père. C'est ça que je veux dire. C'est que oui, on peut pas non plus dire toutes ces déclarations, elles sont dictées par le fait que c'est le fils de son père. On est tous le fils de nos pères. Pourtant, on n'est pas forcément tout le temps automatiquement en train de penser sur le même monde que nos parents. Pourquoi est-ce que ça serait partir du principe que Nelson Piquet Jr. penserait systématiquement et défendrait systématiquement son père? C'est
oui,
sûr
mais
que
attention,
c'est
une si
donnée du peuple.
Mais texte.
C'est pas forcément la seule.
Oui, faut pas rentrer dans l'extrême inverse. De dire oui, pas tout le temps. Oui, mais parfois aussi, le fils pense comme le père.
Oui, non, parfois.
Mais quand tu dis une déclaration piquée,
ce que je veux te dire, Shinji, c'est qu'on ne peut pas retenir que ça.
Non, mais faut.
Moi, c'est le truc, c'est qu'on peut, faire toutes les suppositions qu'on veut sur pourquoi est-ce qu'il dit ça, est-ce qu'il est légitime ou pas. Au fond, le truc, c'est qu'il dit un truc, et qu'il faut lui répondre sur ce qu'il dit. Il dit des conneries, on lui répond sur ce qu'il dit des conneries.
Mais quand tu lis ces déclarations, c'est quand même un peu langue de pute, tu peux pas t'empêcher de te dire, c'est quand même bien le fils de son père, parce que dans le style, lâcher des phrases cinglantes, c'était quand même bien
sûr,
le Piquet Senior.
Surtout qu'il y a de la rancœur, quoi, par rapport à son passage à la F1.
Sans pour autant aller dire, il dit ça parce que c'est le fils Piquet. Non, tu peux te dire, il y a quand même une certaine hérédité dans l'art de la phrase bien sentie.
Après, mais on peut pas s'arrêter sur ça. Moi, sincèrement, quand je vois certains commentaires, les commentaires,
il s'arrête sur ça, quoi. Il s'arrête soit sur le fait que il a pas de palmarès, donc grosso modo il doit fermer sa gueule, ou soit sur le fait ah c'est bien le fils de son père. Bah oui, mais enfin d'accord, moi je vous connais, je sais que vous dites un truc, mais derrière il y a quand même de la réflexion. Mais il y en a certains, t'as envie de te dire c'est bon les garçons, élevez un peu le débat, quoi. Commentez le fond, répondez-lui sur le fond. S'il dit des conneries sur Grosjean, il dit un paquet de conneries. Enfin, sur Grosjean, il enfonce une porte ouverte. Quand il ose dire sur Grosjean, Grosjean est là grâce à ses sponsors.
Bah, c'est quand même le.
T'as juste envie de lui dire bah oui.
Comment tout le monde.
Bon, lui est à.
Faut se rappeler. Si on se rappelle, il y a à peu près un an, Grosjean allait être champion GP2, ça faisait aucun doute. Pourtant, tous les Français, on n'était pas sûrs qu'il serait en Formule 1, oui. C'était pas certain. Et bon, là, il y est, on le sait.
On sait que c'est grâce à Total.
Total a été un pouvoir décisif et Lotus s'en est jamais caché, Grosjean s'en est jamais caché. Là où on peut critiquer Nelson Piquet, c'est pas lui répondre sur le fait que lui aussi il a eu des sponsors. C'est juste de dire, mais il a finalement rien compris à la Formule 1, puisque la Formule 1, ça fonctionne comme ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a aucun mec qui vient en Formule 1 sans être soutenu financièrement. Même Lewis Hamilton, même s'il n'a pas été soutenu ouvertement par un sponsor, il a quand même fait entièrement sa carrière grâce à l'argent de McLaren.
Piquet Junior a fait quasiment toute sa carrière
dans l'équipe de Papa
F1, dans une structure créée spécialement pour lui par son père. Il n'est pas le seul. Hein. Que Nico Rosberg a aussi roulé dans la team Rosberg. C'est pas le seul, faut quand même le dire.
Non, mais c'est ça le truc, c'est que on s'attache à ce fait-là. Mais non, faut juste dire. Bah, de toute façon, tous les pilotes aujourd'hui en Formule 1, il y a aucun pilote qui rentre en Formule 1 sans le budget.
De toute façon, je rappelle,
ils ont talent à moins d'être un génie pur. Mais ça.
Je sais plus dans quel article je rappelais que même Alonso est arrivé chez Ferrari un an plus tôt avec les sous-sous de Santander. Hein.
Donc, ben, dans un Schumacher a été payé. Enfin, Jordan a été payé par Mercedes pour le faire venir chez Jordan.
Aujourd'hui, c'est.
Sans doute regarder du côté de Senna, du côté d'Ayrton Senna, il est sans doute pas venu tout seul chez Tolman. Il y avait sans doute des contreparties financières X ou Y. C'est dans l'histoire de la F1 depuis le moment où tu avais des pilotes qui s'achetaient des voitures.
Le soutien de Elf, hein, pour beaucoup de pilotes français.
Voilà. Donc c'est là où il faut le répondre à Piquet, c'est juste dire mais ce garçon il s'attaque à Grosjean, mais ce qu'il dit sur Grosjean il pourrait dire sur tous les pilotes en fait.
Tous les jeunes pilotes, oui, tu prends Grosjean Total, c'est pas un secret. Tu prends Perez, soutenu par
c'est ce que tu disais, hein,
c'est pas un secret.
C'est ce Maldonado qu'on dit en rigolant d'Alonso, hein, qu'Alonso c'est le plus cher pilote payant au monde, hein.
Oui, mais c'est ça.
Bon, c'est un peu exagéré, mais voilà.
J'ai même presque envie de dire que pilote payant n'est même plus une expression péjorative, parce que de toute façon tous les pilotes sont devenus payants. T'es obligé de payer ton baquet. D'une façon.
Aujourd'hui, les pilotes payants sont pas du niveau des Mazzacan, des tout ça.
Voilà. Les pilotes payants aujourd'hui, c'est plutôt Grosjean.
Et pour une bonne raison, c'est que contrairement à Mazzacan, où il y avait, c'était quand même assez opaque les endroits où venaient les mecs, c'était de la F3, c'était la F3000 et compagnie, donc c'était pas très sûr. Là, il y a la case GP2, quasiment tous les nouveaux pilotes viennent du GP2, il y a la case World Series by Renault, donc il y a quand même des endroits où, de toute façon, avant même d'arriver à la Formule 1, les mecs pas talentueux ont pas le niveau pour passer en GP2. Ils iront pas. Donc automatiquement, les mecs qui aujourd'hui ont l'argent pour entrer en Formule 1, ils ont minimum un bon niveau de GP2. Et voilà, un bon niveau de GP2, c'est autre chose que le niveau de Mazzacane, de Bruni, compagnie. Il y a 10 ans.
Tous les champions GP2, à l'exception de Pantano, sont en Formule 1.
Bah, on parle de.
Toi, tu as écouté le quiz.
Comme il y en a qu'un à retenir dans ceux qui ne sont pas montés, ça va. C'est facile.
On parle souvent de clarification des filières avant, parce que c'est vrai qu'il y en a énormément, mais le dernier palier avant la F1, il y en a que deux, hein. Franchement, c'est le GP2 et accessoirement la formule Renault 3.5.
Là, je sens que cette année, le champion, c'est pas sûr qu'il monte.
C'est vrai.
Si je me trompe pas, c'est Valsecchi qui est bien placé pour être champion.
C'est Radia qui est en tête, je crois.
C'est Radia qui est en tête.
Je sais même pas qui est en tête cette année.
Bah, de toute façon, vu le niveau cette année.
Mais est-ce que l'année où Pantano a été champion, est-ce que c'est pas Senna qui a fait deuxième?
C'est possible.
Parce qu'on dit souvent, Senna n'a même pas été champion GP2.
Non, ouais.
Je me demande si c'est pas l'année de Pantano. Mais bon, c'est à vérifier.
Mais après, ça dépend, en GP2. Enfin, voilà, s'il est arrivé débutant, et que Pantano il était là, je crois qu'il était là depuis 4 ou 5 ans. Enfin, depuis le début.
En effet, en 2008, ouais, derrière Pantano, c'était.
Mais
c'était
attention là. Que maintenant, le GP2, avec la nouvelle voiture, beaucoup de gens, que ce soit pilotes, responsables d'équipe, etc., disent que des pilotes qui débarquent en GP2, qui sont champions la première année, ça va devenir de plus en plus rare, parce que la voiture est quand même beaucoup plus complexe que ce qu'elle était avant, et que ça nécessite quand même un peu plus que par le passé.
Et puis, il y a beaucoup plus de courses.
courses.
Plus expérimenté, oui, il y a plus de courses.
Parce qu'il y a eu la fusion avec la GP2 Asia, donc.
Et du coup, les mecs qui vont monter du GP2 sont encore meilleurs.
Oui,
théoriquement.
C'est pas mal,
théoriquement, oui, parce que là.
Ouais, théoriquement.
Donc se dire, ah, le petit il est en tête, mais ça fait 4 ans qu'il est en GP2, c'est plus forcément un argument.
Ah oui.
Aussi valable qu'avant.
Mais faut noter aujourd'hui qu'il y a une déclaration de Éric Boullier où il a dit que aujourd'hui l'argent finalement c'était plus vraiment le problème. C'est qu'en fait aujourd'hui l'un des problèmes pour faire monter des pilotes, il parlait de D'Ambrosio, c'est qu'il y a des pilotes âgés, des dinosaures de la F1, qui s'accrochent. Il dit clairement, enfin, il y aurait de la place aujourd'hui. D'Ambrosio pourrait être en Formule 1.
Il y a que 12 équipes et 24 places. Hein. C'est faut se faire une raison. Ouais.
Voilà, donc qui sont les dinosaures de la F1
aussi un peu, parce que de toute façon si Weber s'en va, et enfin il y a
encore Weber, il fait des trucs.
De la Rosa, ça le concerne même pas D'Ambrosio, il retournera pas dans une petite équipe. C'est pas le plan. Mais
ouais, non, mais pour un autre pilote que D'Ambrosio, c'est vrai que pour D'Ambrosio c'est pas le cas, mais pour un autre pilote que D'Ambrosio, ça pourrait être une porte d'entrée.
Pourrait être une porte d'entrée. Bah oui, prends.
Pareil pour Kartikeyan, on peut compter Schumacher aussi dans le lot, hein. Je suis désolé pour les fans de Schumacher, mais on peut le compter dans les dinosaures.
Oui, mais si on va passer au paquet des autres actus.
Ouais, hein, merde.
Non, mais tu vas voir, les actus qui n'ont pas été prises étaient aussi finalement du même niveau, tu vois, que celles qu'on a évoquées, puisque il y a eu Manicourt qui brigue le Grand Prix de France.
Mais vous l'aurez jamais, votre Grand Prix, c'est bon, arrêtez de nous emmerder.
Ah, ça y est, lui maintenant qui sait que ça a été reconduit, t'as vu comment il crâne?
De toute façon, même avant que ce soit officialisé, on se doutait bien que l'alternance France-Belgique était plus que... Non, ça fait un moment qu'on se doute que l'alternance entre la France et la Belgique est morte, je suis désolé.
Oui, oui, oui.
On est bien d'accord que en 2012, celui qui y croyait encore...
Il y a un an, tout le monde y croyait. Quand
même. Il y a un an, c'était purement d'actualité.
Il y a un an, c'était annoncé presque même.
Bah, il y a un an, oui.
Pendant le week-end de Spa.
Bah, il y a un an, tu parlais à Étienne Davignon.
Plus personne n'y croit depuis le mois de mai.
Tu parlais à Étienne Davignon.
Depuis le 6 mai, plus personne n'y croit.
Oh, depuis même avant. Hein.
Ouais.
Même avant d'aller voter, on savait à peu près déjà.
Sinon, on a l'avenir menacé pour le Grand Prix d'Inde, point d'interrogation, pour des questions de terrain apparemment, qu'il pensait les avoir, mais en fait, il les posséderait pas. Bon.
Et donc, du coup, ils peuvent pas construire dessus des résidences, ils espéraient rentabiliser le circuit en construisant des résidences, et en fait, comme les terrains ne leur appartiennent pas...
Bah, ils peuvent pas construire sur un terrain qui leur appartient pas.
Donc, voilà.
C'est con, parce que le circuit enfin, j'ai trouvé le circuit assez intéressant.
Écoute, s'ils peuvent faire en Inde ce qu'ils ont pas encore réussi à faire en Corée du Sud.
La Corée du Sud, le circuit n'est même pas intéressant.
Ah oui, mais on attend Manhattan. Hein.
Mais ils sont propriétaires de leur terrain.
Oui. On attend Manhattan. Pour l'instant, on a des vaches et des putes. Mais bon, normalement, un jour, il y aura Manhattan.
Des prostituées. Ça m'arrange, parce que quand tu dis ça, c'est derrière. Au montage, j'ai toujours envie de me dire, ah, mince, il dit pute. Ah.
Des vaches et des prostituées.
Des péripatéticiennes.
Sinon, on a The Rush qui entame sa promotion, parce qu'apparemment le tournage est terminé, là il doit être en post-production. Le film ne sort que l'an prochain et deuxième semestre de l'an prochain, si je me souviens bien.
Septembre 2013.
Septembre 2013.
Et bon, il y a...
Ça a l'air sympathique. Là,
ils ont fini le gros du tournage, maintenant dans les films, il y a la post-prod et puis il y a sans doute
les effets spéciaux,
des retournages.
Oui, c'est très alléchant.
Les effets spéciaux à faire et tout.
En tout cas, ça a l'air pas mal. De ce peu qu'on a vu pour le moment...
Puis il faut brûler artificiellement la peau de Loda, donc.
Ouais.
Mais ça a déjà été fait, ça. Il y a même eu
Daniel
un Brühl, making of. Il y a un type qui a filmé ça.
C'est quand même Daniel Brühl qui fait Niki Loda.
Oui.
L'humour.
Et on faut savoir comment ce sera traité, mais.
Vu qu'on parle de cinéma, avoir une petite pensée, je voudrais avoir personnellement une petite pensée pour Tony Scott qui nous a quittés, qui est un réalisateur que j'adore, je peux être le seul à adorer Tony Scott, et qui avait notamment fait
Jour de tonnerre. C'est pas vrai, t'es pas le seul. Quand Télérama, ils ont fait un article complètement sale sur Tony Scott, il y a plein de gens qui ont balancé sur Télérama, parce que il a dit, oui, il faut arrêter d'être hypocrite, Tony Scott c'est pas un grand réalisateur et tout ça. Ils ont quand même osé sortir l'article, genre 24 heures après sa mort. Bon, on peut avoir son avis sur Tony Scott, ça, ok. Mais il y a quand même une petite décence quand même à avoir.
Il y a plein de noms de films qui sont dans l'inconscient collectif et dont on sait même pas que c'est lui, en fait. Moi, j'ai découvert plein de films dont je connaissais le titre et que j'avais même pas trop vu.
Pas drôlement, je l'ai appris que c'était lui.
Et je savais pas que c'était lui.
Sinon, Alonso, qui dit difficile de dire si Kubica pourra revenir. C'est moi qui l'avais cité parce que c'est vrai que c'est un peu silence radio, Kubica. Alors là, apparemment, il y a eu une nouvelle...
Du rallye.
Voilà, il aurait testé une Ford WRC.
Il
tout ça, c'est du conditionnel.
Ford,
ouais. Hein.
Il y a Autosport qui en parle quand même, donc c'est.
Ah,
c'est,
quand même.
Donc, est-ce que encore une fois, c'est, il a testé un truc, mais personne l'a vu.
Personne l'a vu, hein.
Est-ce que, derrière, est-ce que c'est pas non plus un coup de com' où, il y a un accord avec Ford pour vous dire, on dit à Autosport qu'il a roulé. Ouais. Voilà, Autosport, ils ont la source, si c'est Ford ou si c'est une source viable qui leur dit, voilà, si on leur transmet une information, mais, c'est viable. Enfin, je me rappelle, Autosprint, qui est aussi un site référence en Italie, qui avait montré une vidéo, soi-disant c'était Robert Kubica, les vitres étaient fumées et tout, on est quand même en droit de se demander si c'était bien Robert Kubica
dans
la bagnole.
Il y a un moment, Robert Kubica, il va falloir qu'il parle, parce que ça fait longtemps qu'on ne sait pas où il en est.
On n'a pas d'image.
Oui, on n'a pas d'image, on n'a pas d'interview, on n'a rien. Ça, depuis son accident, on n'y a quasiment rien dit.
Il va bien. Est-ce que sa main va mieux? Quelle mobilité il a sur sa main?
De toute façon, là.
Obligatoirement, le silence, ça s'entoure de d'incertitude et ça, on se pose tous des questions, alors que s'il parlait, ce serait beaucoup plus clair pour tout le monde et je vois pas pourquoi il y a tout ce secret autour de lui.
La communication a toujours été mauvaise par rapport à l'incident de Kubica. Hein.
Et oui.
Et puis qu'on nous fasse pas languir avec un faux espoir, ça fait quand même un an et demi. Faut pas se bercer d'illusions. Si au bout d'un an, mais qu'ils le disent officiellement. Voilà, je peux plus revenir en F1, j'ai plus la mobilité.
Kubica, il reviendra pas. Enfin, pour moi, c'est clair depuis longtemps. Donc,
ça paraît clair, mais ça serait bien quand même qu'on l'entende parler, qu'ils nous le disent. Non, c'est plus possible.
On peut quand même pas.
D'ailleurs, nous lançons un appel.
On peut quand même pas s'empêcher de se dire qu'au volant de la Lotus.
Robert, Fernando, ah non, merde.
Je vous emmerde quand je parle, faut le dire, hein.
Oui, tu nous emmerdes.
Voilà.
Non, vas-y.
Non, je disais qu'on pouvait quand même pas s'empêcher de se dire que Kubica aurait fait des belles choses avec la Lotus, même l'an passé, par rapport à Neidfeld et,
ah oui, c'est certain.
Cette année, t'imagines un duo Raikkonen-Kubica, ça fait quand même rêver, quoi. Avec tout le respect qu'on peut avoir pour Romain Grosjean, il fait une belle saison aussi, mais.
Non, parce que Raikkonen, il sera allé chez Williams.
Tu aurais pris départ, tout ça.
Ouais.
Voilà.
Et là, tu vois, Maldonado, il aurait eu quelqu'un d'expérience à côté de lui.
Mais non, c'est un coéquipier faible, t'as pas vu ce qu'il a dit piqué.
C'est bien, tout est lié dans cette émission. Sinon, autre actu, Schumacher 300e. Car oui, ça sera sa 300e course. À Spa.
Non, c'est la 299e.
19e.
Non, on va avoir le droit au débat ce week-end, Shinji.
Ah non, il n'y a pas de débat.
Non, c'est pas, il n'y a pas de débat, on s'en fout. C'est pas ma sac.
En tout cas, on va dire, choisi cette actu.
Non, mais tout le monde va avoir ce débat de dire, oh, c'est la 300e, puis t'as celui qui dit, ah non, rappelez-vous le Grand Prix de France 96, où il a abandonné dans le Tour des Chauves. Et là, on reviendra. Je vous parie que dimanche, Jean-Louis Poncé,
va la sortir
le Grand Prix, va vous dire, ouais, mais c'est encore le débat. Il va râler sur ça, vous allez voir. Et il va dire, oh, on s'en fout, c'est 300e. Et il y a Lafitte derrière qui va répondre.
Oui, mais en même temps, il a fait les qualifs. Et...
Lafitte, il va répondre oui, et Jacques Lafitte, 176, tout le monde s'en fout.
Oui, voilà. Si ça se passe comme ça, on a gagné des 40 bars.
Allez, sinon, une autre actu que Ben a choisi, c'est pas étonnant, D'Ambrosio mérite d'être en F1.
Mais évidemment.
En même temps, il y est déjà.
Moi, tu vois,
c'est juste qu'il est essayeur.
Mais à la place de qui? Tu mettrais à la place de qui, toi, cette année, D'Ambrosio?
Grosjean ou Raikkonen?
Même en dehors de...
Non, si j'étais un peu langue de pute, j'aurais envie de répondre à Boulier que si l'argent n'avait aucune importance, il aurait pu le mettre à la place de Grosjean. Sincèrement, si je devais le voir l'année prochaine dans une écurie, je le verrais vraiment bien chez Sauber. Moi, j'aimerais bien le voir là. Parce que j'aime beaucoup Sauber.
Ben, la place de qui?
Un petit duo Kovalainen d'Ambrosio chez Sauber, ça
serait ça. Tu vires Perez qui va chez Ferrari, tu me remplaces par Gutiérrez. Hein. Comme ça, tu gardes les...
Mais Massa, tu le mets où?
Mais Massa, s'il a pas une top voiture, il quitte la F1.
Ah, mais c'est vrai.
En IndyCar.
Et les rumeurs,
c'est les top voitures.
Comme il y a des rumeurs sur un éventuel départ de Kobayashi, ben je le mettrai à la place de Kobayashi. Mais non, c'est vrai que ça va quand même être compliqué de lui trouver un volant, parce que de toute façon chez Lotus c'est bouché. Raikkonen, ils vont pas le laisser partir comme ça. Grosjean a justifié son baquet, donc ce dont on doutait quand même pas trop quand même. Mais voilà, donc a priori il va rester aussi. Ailleurs, je vois pas trop. Il va pas retourner dans une petite équipe.
Non, bah, c'est ce qu'a dit Boulier. Hein. Il préfère l'avoir. En plus, Boulier, il a dit qu'il le gardera en 2013, en sachant qu'il y aura le programme parallèle 2014.
Rien.
Donc, à la limite, même si apparemment celui qui s'occupe de la carrière d'Ambrosio estime que ce sera un échec d'être encore une fois troisième pilote, on peut quand même estimer que en ayant roulé chez Lotus l'année prochaine, en préparant sans doute le moteur turbo et compagnie, la voiture 2014, ça peut être relativement intéressant pour 2014.
Et puis, non, le regret que j'ai, c'est parce que j'ai fait un peu ma boutade sur le volant de Grosjean en 2012, mais parce que le vrai regret que j'ai, c'est qu'il n'ait pas encore eu l'occasion de rouler un vendredi. Au moins, Francorchamps aurait été sympa de le voir rouler. Bah, il a fait des essais en Italie, mais il n'y a pas eu de bol, il a plu, donc il n'a pas vraiment profité de sa journée. Mais c'est vrai que ça aurait été sympa de le voir.
Il n'a pas roulé une fois en début de saison.
Non, pas du tout. Il n'a pas fait d'essais pas de séance officielle en pendant un week-end de course.
Donc ça aurait été sympa de voir. Surtout que les deux pilotes en début de saison, ils ont voulu leur réserver les essais pour qu'ils tournent beaucoup. N'oublie pas, hein, comme les deux n'étaient pas en F1 l'an dernier.
Donc voilà, ça aurait été sympa de le voir rouler vendredi matin à Francorchamps. Bah, il reste encore des courses, ça peut encore éventuellement se faire, mais à mon avis,
Il jouera les
raisons pour lesquelles ils l'ont pas fait à Francorchamps seront toujours valables pour les prochaines courses. Donc ça c'est le vrai regret que j'ai par rapport à ça, mais bon, ça peut encore éventuellement changer. Mais...
Sinon, bon, là, on l'a évoqué, donc le V6 Ferrari qui est sur le banc, ça c'était Ben et Gus Gus. Ensuite, Zanardi aux Jeux Olympiques.
Oui.
Oui, il y a Mario, Sonic et il y a aussi Zanardi aux Jeux Olympiques.
Non, c'est même. Oh, bon, j'ai fait une chronique dessus, mais c'était même pas pour l'autopromo, c'était juste pour parler un peu de souligner que les Jeux Paralympiques ont commencé.
Demain.
Ben, ils commencent demain.
Aujourd'hui.
Enfin, mercredi. Non,
au moment où vous écoutez cette émission, les Jeux Paralympiques débutent.
Voilà. Donc, voilà, parce il y a la cérémonie d'ouverture sur France. Oh.
On fait beaucoup de foin avec les Jeux Olympiques. Pour valide, c'était l'occasion d'aussi.
Et si vous voulez regarder des épreuves, c'est sur Télé8 Mont Blanc. Je déconne pas, hein, c'est Télé8.
En direct ?
Ouais.
Ah ouais.
Oui, ils ont refilé pour 1€ symbolique à Télé8 Mont Blanc.
C'est fort.
Sinon, bah tiens, puisqu'on évoque les Jeux Paralympiques, on va parler d'Athènes, plus précisément de son port, le Pirée, puisque c'est toi, Dino, qui a repris l'actualité. Le gouvernement grec soutient un projet de Grand Prix au Pirée.
J'ai même mis en deuxième position.
Oui. Oui, mais c'est parce qu'en fait, en août, c'est le 1er avril en Grèce.
Oui, parce que, voilà. Mais non, ils n'ont pas de thunes, mais ils veulent un Grand Prix. Nous, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Eux, ils n'ont pas de thunes, mais ils veulent un Grand Prix.
C'est la réponse qu'on a souvent mis en commentaire. C'était, ils connaissent la crise et compagnie. L'État grec connaît la crise. L'État grec est en faillite. Maintenant, il y a des entreprises grecques, il y a des milliardaires grecs. C'est justement le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se sont enrichis sur le compte de l'État grec, qui aujourd'hui sont millionnaires ou milliardaires.
Ouais, qui rentrent et qui l'État, ont de l'argent, ça peut être bien. Et compagnie.
Mais quand on lit le projet du Grand Prix au Pirée, c'est un projet qui est financé sur de l'argent.
Privé, hein.
C'est du 100% privé. L'État d'ailleurs a rassuré les ministres concernés, ont dit qu'il n'y aurait pas d'argent public. Un tracé qui existe déjà 70%. C'est dans un port industriel qui est en pleine déconfiture et donc l'objectif c'est de le relancer en amenant un événement important. Je sais qu'ils ont vendu une partie du port à la Chine il y a quelques mois. Ça s'inscrit aussi parce que c'est aussi ça s'inscrit dans le débat européen de savoir est-ce qu'il faut faire grosso modo parce qu'on est c'est la crise, il faut arrêter de dépenser, il faut serrer la ceinture, ou alors est-ce que il faut à la fois serrer la ceinture mais en même temps lancer des projets. En termes de tourisme, actuellement la Grèce ça se casse la figure parce que c'est plus un tourisme de masse, mais pas parce que la Grèce est pas attractive, mais c'est parce que simplement les gens qui font le tourisme de masse, c'est-à-dire nous hein, voilà, qui avons des salaires moyens, bah, aujourd'hui on s'offre plus de vacances, ou quand on y va, bah, on y va beaucoup plus proche et beaucoup moins cher, donc du coup on va plus en Grèce, et les Grecs sont aujourd'hui en train de se tourner vers une clientèle beaucoup plus riche, venu notamment de Russie et des différentes oligarchies. Et donc, le Grand Prix Formule 1 s'inscrit dans cette perspective-là. Donc, effectivement, si on reste dans la première optique, c'est de se dire, la Grèce, c'est un pays qui est en crise, il faut qu'ils organisent strictement rien. Bah, d'accord, ok. En même temps, quand on regarde derrière, l'État grec met pas un rond dedans. Le circuit, il existe déjà à hauteur de 70%. C'est un truc permanent, donc si jamais ça marche pas, ça peut dégager. Ça a le soutien de Bernie Ecclestone qui serait d'accord. Après, il faudra voir qu'est-ce qu'il va demander comme argent. c'est européen, ça a quand même l'avantage d'être européen. Et puis c'est financement privé, donc on peut pas non plus totalement discréditer.
C'est comme l'Inde au niveau du financement.
Truc en disant juste ah il y a la crise, faut quand même regarder derrière et derrière. Bah finalement le projet il est pas si mal, il tient la route, il y a une vraie ambition derrière de d'essayer de au moins ils font quelque chose pour essayer de se sortir de la crise quoi.
Alors, le vrai point négatif je le dis souvent quand je vois un nouveau projet, c'est pourquoi encore assez... Enfin je sais que Dino va me sortir l'argument financier et je le comprends totalement, mais moi personnellement un nouveau circuit urbain ça me branche pas quoi. Tu peux le mettre n'importe où, ça me fait pas rêver quoi. Même si effectivement si le jamais le circuit marche pas, tu peux le dégager, en faire autre chose, t'es pas emmerdé. Mais par contre, j'ai vu je sais pas si vous l'avez vu aussi, la vidéo du c'est James Allen qui a fait ça, qui a joué à F1 2012 avec un des producteurs du jeu et qui a fait un tour du circuit avec la Ferrari
à Austin.
Il a l'air pas mal ce circuit.
Ouais.
Sincèrement, de ce que j'ai vu sur la vidéo, enfin, il a fait tout le tour, mais ça avait pas l'air mal.
Quand t'écoutes des commentaires, il dit, tiens, ça me rappelle la Turquie, tiens, ça
ouais,
me rappelle la Grande-Bretagne.
Ça rappelle beaucoup de choses, ça a l'air pas mal. Faudra voir, déjà quand on aura le jeu en main, et puis quand la F1 ira en vrai. Mais ouais, il avait pas l'air mal. Hein. Sur papier, on a déjà vu pire, quand même.
Ensuite, Dino, tu as cité Ferrari, Mercedes et Force India qui seront en septembre à Manicourt.
Bah, j'en ai un peu parlé, hein, c'est parce que je pense que c'est peut-être une bonne décision dans l'optique du championnat pour ces équipes-là, en sachant que bah, les autres vont faire ça en fin de saison. Alors après, ça aura aussi, voilà, ils le font là, donc du coup ils le font pas en fin de saison. L'avantage pour 2013, il sera plutôt de le faire à Abu Dhabi. L'avantage pour 2012, il est plutôt de le faire maintenant. Donc voilà, mais après bon, il n'y a pas non plus de gros changements, donc je pense que c'est peut-être une bonne décision d'aller à Manicourt.
Ils vont après Monza, c'est ça hein.
Oui.
Au moins c'est le 13 et le 14. Avec ce grand mystère, c'est-à-dire que moi je me suis un peu renseigné pour savoir comment on pouvait y aller, et j'ai ce grand mystère, c'est que autant pour aller de Rouen à Nevers, c'est fastoche, autant pour aller de Nevers à Manicourt, je sais pas comment ça marche.
Bah, y a l'autoroute, voilà. Si, l'autoroute elle se termine juste au niveau du circuit.
Ouais, oui, mais pour normalement,
la voiture, j'ai pas encore la voiture.
Ah, t'as pas la voiture, c'est vrai.
Bon, il doit y avoir... J'ai le permis, mais j'ai pas la voiture.
Mais tu sais, quelque part, ouais. Ce que tu me dis, ça me rassure.
Sinon, côté actu, deux dernières qu'on a évoquées. Adrian Newey, donc, qui parle des règlements 2012 et 2014. Et Maldonado, qui estime que ses erreurs sont normales, entre guillemets.
Oui, parce que c'est un homme normal.
Votez Maldonado.
Donc, au niveau du sondage, donc on est d'accord, on va pas vous proposer les actus, parce que finalement, vous avez vu, au niveau de ce qui a été choisi, de ce qui a pas été choisi, tu vois, c'est pas nul, mais ça se vaut, tout se vaut, en fait.
Oui.
Mais de toute façon, on va leur demander, donc, pour le champion du monde.
Ouais.
Je valide ce choix. Hein.
Donc, qui sera, selon vous, champion du monde 2012 de Formule 1? Donc, on vous proposera de choisir entre les 5 premiers, plus le 6e, si vous pensez que peut-être Karti Kéyan, hein, sera peut-être champion du monde. J'ai envie de dire, si vous prenez le 6e choix, expliquez-vous dans les commentaires.
Ouais, et on garde les IP, et si vous avez tort, on vous poursuit tout 2013. On vous cherche et on vous tue.
Parce que si vous répondez voilà. À Londres, on s'en fout, c'est facile. Si vous pensez que Karti Kéyan ou De La Rosa est champion du monde, ça c'est intéressant. Sur ce, on va passer aux citations.
Ouais.
Non mais allez-y, hein. Faites-vous plaisir.
Bah, je vais commencer dans ce cas-là. C'est Paul Embry, parce que vous avez remarqué, on n'a pas encore parlé de pneus quand même cette semaine. C'est rare.
C'est rare.
Ces mêmes pneus se comportent de manière très différente sur une voiture datant de 2010. Parce que oui, il sous-entend que les équipes, en fait, elles auraient peut-être moins de problèmes si eux, ils pouvaient tester leurs pneus sur une voiture plus récente. Parce que vous savez que déjà, cette année, ils ont quand même eu un mal de chien à obtenir une voiture. Et c'est seulement une voiture 2010.
C'est la R30.
La Renault, oui. Voilà. Donc la question, c'est est-ce que l'an prochain, ça va pas encore être le même problème? Est-ce qu'ils vont avoir la possibilité d'avoir une 2011? Mais là, ça, il y aura toujours autant de...
Et surtout, comment ils vont faire entre 2013 et 2014?
Ah bah
parce
oui.
Ils n'auront pas de trucs avec des V6 pour faire les pneus de 2014, ouais. Ils sont toujours là.
Et ben justement, Pirelli, alors ça je le dis parce que je leur ai demandé, ils m'ont autorisé, Pirelli est en train de construire un moteur V6. Qui s'usera en fait. C'est-à-dire que vous devrez vous arrêter au bout de 30 tours pour en changer de moteur.
T'imagines Pirelli, motoriste unique de la F1. Avec un moteur en caoutchouc.
Non, est-ce à vous?
Ben bon, je vais me lancer alors. Moi, c'est une de Ross Brown qui explique qu'il y a une analogie amusante avec la pêche. J'y pensais l'autre jour. À la pêche, ce qu'il y a de bien, c'est qu'un débutant peut arriver et réussir à attraper un poisson, parce qu'il y a un facteur d'incertitude. C'est ce qui rend ça amusant pour les participants, mais ça n'en fait pas un bon sport pour le public. C'est donc c'est Ross Brown qui évoquait ça en, par rapport à l'incertitude qu'il y a eu jusqu'à présent pendant les courses de F1.
Qui est un qui grand est, amateur de pêche au gros.
Qui est un grand amateur de pêche, effectivement, et qui se demande si le fait que la F1 devienne un peu devienne aléatoire par certains aspects n'est pas mauvais pour ne va pas finir par lasser le public en fait.
Parce et donc il parle de la... certains pilotes, on avait eu un débat il y a quelques mois. Ah ouais. Je crois que c'est Button qui avait dit ça et puis il y avait un autre pilote aussi.
Oui, bah au début ça. De saison, il y a plein de gens, il y a des pilotes, des journalistes, des observateurs divers et variés qui se sont posés la question de se dire c'est bien 6 vainqueurs en 6 courses mais si au fin, la fin de la saison, on a 20 grands prix et 20 vainqueurs, est-ce qu'on va trouver ça encore aussi amusant? Mais et donc là l'analogie était amusante et, ça fait partie des petites phrases drôles de la pause estivale qui se termine et c'est pas plus mal.
Alors moi, ce serait une citation de Michael Schumacher aujourd'hui. J'ai hésité avec Dennis Robinson, mais je pense que Dennis Robinson, vous en foutez. Michael Schumacher qui a déclaré « J'ai eu quelques adversaires, mais au final, il n'en reste qu'un. Il n'y a personne pour qui j'ai eu plus de respect sur et en dehors de la piste que Mika Häkkinen. »
C'est pas étonnant.
C'est pas nouveau non plus.
Oui. Il dit plein de belles choses en ce moment, Michael.
Il l'avait déjà dit.
Bah, il a toujours dit. Enfin, bah, oui, en même temps, c'est... tout le monde l'a toujours su. Enfin, oui. On regarde un peu ses rivaux. Déjà, bon, le peu de rivaux qu'il a eu, tu sais qu'entre il et lui, ça a jamais bien marché. Tu sais que avec Coulthard, ça a jamais bien marché. Voilà, bon. On sait que les deux qu'il a du respect, c'est Häkkinen et derrière un peu Alonso.
Les deux seuls qui l'ont vraiment battu. Enfin.
Ouais.
Continue à broder. Hein.
Même si techniquement il l'a aussi battu, mais bon, la situation chez Ferrari était pas la même. T'as vu, j'essaie de broder.
Qui ça, il?
Il?
Oui, je sais, ça va.
Pas le cheval, prenez hein. Pas la... Prenez même si pas la... le même nom.
Ouais. D'ailleurs, j'ai une citation de Damon Hill le cheval.
Je suis content d'avoir gagné une médaille.
Bon, attends, je sais, mais je retrouve pas la citation exacte. C'est une citation de Boulier. On en a un peu parlé tout à l'heure, mais pas des masses.
1 plus 1 égale 2, non?
Il a dit une victoire
sur. Ah, c'est Boulier, hein, j'ai plus rien.
Ah,
ouais. C'est-à-dire que t'as ri sans comprendre ma blague.
Oui, si, j'ai enregistré, voilà. Ça, j'ai pris une note. Donc Boulier qui dit « Une victoire serait chouette, ça ne fait aucun doute. Être plus ou moins au rendez-vous sur tant de circuits différents est cependant une très bonne chose en ce qui concerne le championnat et certainement mieux qu'une victoire isolée. » Donc c'est la régularité mieux qu'une victoire, mais si vu où ils en sont, il faudra quand même qu'ils
aient... La régularité, j'ai envie de dire, ils l'ont déjà.
Voilà. Donc c'est le prochain palier à franchir pour vraiment se déclarer comme des prétendants sérieux au titre. Ils prétendent au titre, mais il va falloir qu'ils élèvent un poil leur niveau. Il leur manque juste un petit coup de pouce pour être vraiment des prétendants qui joueront dans la course.
Ah, il leur faut pas grand-chose. Hein.
À oui. Moins de finir régulièrement premier. C'est, voilà.
Il leur manque pas grand-chose, mais ça fait longtemps qu'on dit qu'il leur manque pas grand-chose. Donc là, on va voir si le DRS, le double DRS va leur donner un petit boost à Spa et à Monza.
S'ils s'en servent,
de toute façon, c'est... Bah oui, c'est,
mais... ils sont même pas sûrs de s'en servir encore.
Donc, de toute façon, c'est sur Spa et Monza que ça peut, a priori, leur apporter le plus dans l'immédiat. Maintenant, il y a aussi l'Inde avec une belle ligne droite, la Corée, idem.
Austin, peut-être.
Austin.
Ah oui, Austin, ça va leur servir.
Ouais.
Ouais.
Enfin bref, il y a d'autres circuits, mais c'est vrai que Spa et Monza, c'est quand même deux circuits où ça peut. Il reste 9 courses et c'est maintenant s'il doit avoir un petit plus, c'est maintenant qu'il faut le donner. Mais bon, ils font une belle saison. Hein.
C'est pareil, voilà, c'est ce qu'il faut aussi, c'est relativiser aussi par rapport à leur statut, quoi. C'est.
Bah, quand tu vois
l'an
passé. L'écurie
qui rivalise avec Ferrari, McLaren et Red Bull, qui fait la nique à Mercedes jusqu'à présent, alors que l'an dernier, ils en étaient très loin, quoi.
Bah, l'an passé, ils avaient une bonne base, ils ont pas su la développer. Ici, ils avaient une bonne base, et la crainte, c'était de se dire, est-ce qu'ils vont continuer à savoir maintenir cette base, ou comme l'année passée, chuter progressivement, bah là, ils montrent qu'ils se maintiennent et qu'ils progressent un petit peu aussi. Et... qu'il leur manque de moins en moins pour décrocher cette petite victoire. Qui va venir.
Mais si on passe au répondeur dans ce cas ?
service après-vente de la F1 vous présente le répondeur du SAV. Vous avez une question ? Nous y répondons.
Comme d'habitude, je vais te poser la question. A-t-on des questions dans le répondeur ?
Oui, Chili, nous avons deux questions.
Ah bah.
Parce qu'encore une fois, on n'a pas eu envie de faire la biographie de Jean-Luc Moncey, ça nous déchire.
Tu nous emmerdes, Globen.
Mais tu lis Wikipédia, c'est bon, tu
Et donc, on va commencer avec du lourd, avec une grosse question, une question de Bûcheur. Et vous allez, alors, le but du jeu, ça va être de deviner pour qui est cette question.
Oui. Alors, nous, on connaît déjà la réponse, c'est pas
pour bien se remettre dans le rythme de la rentrée, j'ai une petite question concernant la grosse évolution du règlement 2014. Alors, monsieur, c'est pour?
Bah, Shinji. C'est pour qui? Ça répond à tout l'embrayage et
donc, ça va être Shinji. Et plus particulièrement en ce qui concerne le groupe motopropulseur. Alors là, je tiens à indiquer qu'il y a une parenthèse qui m'est adressée et qui dit « Je parle du moteur et des accessoires qui vont avec le KERS, l'HERS. Merci, Bûcheur. » Jusqu'à présent, était en place un gel des moteurs empêchant les motoristes de faire évoluer ceux-ci comme bon leur semble. Seules quelques petites améliorations, évolutions, pouvaient être faites après autorisation par la FIA sur présentation d'un dossier. Mais que va-t-il devenir de ce gel des moteurs après 2014 ? Va-t-il être toujours en place ? Va-t-il être abandonné définitivement, temporairement ? On parle de plus en plus qu'en 2014, le moteur va reprendre de l'importance dans la performance des F1 et donc il serait bon de savoir si un motoriste pourra facilement ou non rattraper les erreurs de son premier V6 turbo. Merci à vous pour vos excellents articles et les encore plus méga top podcasts amicalement Bûcheur.
Alors Shinji, ta réponse.
Alors écoute, mes contacts
et les méga top chroniques, personne n'en parle.
Mes contacts chez Vivelcop et chez Schwarzkopf confirment qu'il y a encore, il y aura encore du gel en F1 plus tard. Voilà. Gus Gus, c'est à toi.
Eh bien bonsoir ou bonjour Bûcheur. Sache dans un premier temps que si une ébauche du règlement technique 2014 a été publiée l'année dernière en juillet, il n'en est rien du règlement sportif, dont l'article 28.5 et l'annexe 4 de l'édition 2012 définissent les conditions du gel du moteur.
C'est beau, moi j'admire quand il arrive à faire des phrases comme ça, d'un coup, sans respirer. Quoi.
Et sans lire un papier en plus.
Et en comprenant la phrase.
Oui,
oui, c'est, je crois que c'est ça le plus beau.
Par conséquent, Bûcheur, on ne peut faire que des suppositions sur ce qu'il en sera en 2014 et au-delà. La logique voudrait que la FIA agisse de manière analogue à l'année 2006 au passage des V6, passage des V10 vers les V8, pardon. Ce qui voudrait dire que dans un premier temps, le développement serait totalement libre en 2014, ce que laisse entrevoir les déclarations d'Adrian Newey qui dit que les niveaux pourraient changer pendant la saison. Par la suite, les motoristes devraient remettre à la FIA un moteur parmi ceux utilisés lors des deux derniers Grands Prix de la saison 2014, qui seraient donc les modèles homologués pour les saisons suivantes. Ce qui vous permettrait aux motoristes de limiter les coûts de développement sur juste la période de 2014 et après de rentabiliser leurs investissements en vendant leurs moteurs chaque année. Quoi. Ensuite, la FIA serait en mesure d'autoriser des nouveaux entrants les années d'après ou d'autoriser des modifications des moteurs existants. Et là, je cite le règlement actuel. À sa propre discrétion et après consultation avec tous les autres fournisseurs de moteurs pour le championnat. Donc comme les dérogations qui avaient été acceptées pour Renault en 2007 ou 2008, je crois, je sais plus exactement. Ils avaient été autorisés à changer leur moteur parce qu'ils avaient pas un avantage par rapport aux autres.
Et c'est pour ça que si on parle d'une arrivée de Volkswagen, ce serait peut-être plutôt pour 2015.
Ouais.
Tu pourrais déjà un petit peu voir ce qui marche et ce qui marche pas.
Voilà, exactement. Enfin, la dernière solution, le dernier point qu'on a évoqué pendant l'émission, déjà, ce serait d'autoriser des V8 bridés en 2014, mais c'est pas l'ordre du jour dans le règlement, et il y a des gens qui s'opposent à ça, comme Martin Whitmarsh. Donc pour l'instant, c'est tout ce qu'on peut dire sur le sujet du gel des moteurs à partir de 2014.
Mais c'est une bonne réponse.
Deux points pour nous.
Posez des questions techniques, allez-y.
c'est ça qui est étonnant, c'est que finalement on sait pas grand-chose de 2014.
Non.
Les écuries en savent beaucoup plus que nous, sauf que les informations sont pas publiques encore.
Ben, c'est bien pour les équipes, hein, mais pour nous c'est chiant.
Autre question, Dino.
Oui, on a une deuxième question et dernière, qui est la suivante, et elle nous vient de Steve. J'ai une question pour vous. Quel serait votre trio idéal de commentateurs des Grands Prix de Formule 1 à la télévision?
Oh, c'est dur.
Pour ma part, ce serait Roger Zabel, Lionel Froissart et Franck Montagnier.
Ah, c'est pas mal, pas mal.
Bah, Roger Zabel, on n'entendrait pas, ça va?
Ah, Froissart, ça aurait de la gueule.
Froissart, ça serait classe, ouais.
Après, ça dépend.
Après, on peut peut-être découper le trio, sachant qu'il y a un journaliste, enfin, on va dire, un journaliste télé, un journaliste spécialiste et le consultant.
Ouais, donc, c'est dur parce que les journalistes spécialistes.
Déjà, moi, pourquoi trois? J'ai jamais compris. Trois, c'est chiant.
On est en France.
Ah oui, mais c'est chiant, trois.
Bon, deux, c'est bien. On est en France.
Un oui, journaliste et un consultant, c'est bien.
Logiquement, c'est ça, oui.
Ça marche bien ouais, en Angleterre comme ça.
Et comme consultant, D'Ambrosio fait ça très très bien sur la télévision belge.
Non, moi comme consultant, moi il y en a un que je verrais, qu'on se marrerait bien, c'est Jacques Villeneuve.
C'est vrai que ça pourrait être drôle.
Moi je veux voir Jacques Villeneuve comme consultant, sincèrement c'est le pire.
C'est vrai que dans une précédente émission on parlait de James Hunt, c'est ça, hein, qui ouais, avait fait des... C'est vrai que Villeneuve dans le genre La Petite France, ça pourrait être sympa aussi.
C'est vrai que bah, mais faudrait, quand tu regardes les pilotes français, Panis par exemple, ça serait chiant.
Jean Lézy.
Pas forcément, Panis, non?
Ah, je sais pas. Hein.
En termes d'analyse, bah, c'est sûr que ça serait pas
le En analyse, serait... par contre, ouais, bien.
Voilà, en analyse, il serait très bien. Après, en fait vivre le truc, bah, voilà, il y aura peut-être plus un Montagny, peut-être qu'il sera un peu mieux.
Flavio, il parle français, non? Ou mieux Flavio Briatore.
Mais que Fernando, il roule très bien. Mais que Hamilton, désolé, je ne connais qu'un pilote, c'est Fernando.
Il y a un site où il y a des sons, et vous vous rappelez à l'époque, en 2005-2006, ils avaient un intercom avec Briatore, et ils lui parlaient pendant la course.
Ouais.
Et il y a une fois, il lui pose une question, il dit, mais si vous parlez comme ça, moi je comprends pas, vous le rappelez plus tard. Ils se sont fait rabrouer, parce qu'il y a des voitures qui passaient en même temps, ils parlaient pas assez fort.
Et le refont maintenant le boulier.
Oui.
Ouais.
Alors, Romain Grosjean vient d'abandonner, vous êtes dans quel état d'esprit?
Ah, j'ai des poules.
Bah, à une époque, ils avaient Marc Minari dans les stands aussi.
Oui.
Moncey a fait les stands.
Pierre Van Vliet
a débuté dans les stands, ouais.
Après,
Mais un commentateur de sport auto, le niveau, il est pas terrible. Hein.
Moi, je ne vois qu'une solution.
La manifestation.
Je suis d'accord.
Oui, oui.
Pourquoi chercher midi à 14h? Où trouve-t-on les meilleurs spécialistes sur le sujet?
Le seul problème, c'est que ça doit être des Français, donc voilà. Faudrait qu'on ait une dérogation pour avoir le droit d'un Belge.
Un Belge, ouais.
On aurait ce qu'il faut sur le domaine technique. Bon, ça va.
Ouais.
Ça ferait chier un peu, peut-être, les téléspectateurs, mais bon.
Il faut élever le téléspectateur, il faut pas se rabaisser à lui.
Qu'est-ce que, de toute façon, voilà, qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque quoi? 40 millions d'euros par an? Bagatelle.
Voilà. L'année prochaine, la F1 sur funf1.com. La diffusion en direct. Non, enfin, ouais, en trio,
Jackie.
Mais en fait, je pense qu'aujourd'hui, on n'aime pas ce qu'on a actuellement, mais en même temps, je pense qu'on perdrait quelque chose en les perdant. On perdrait un petit peu en comique et en...
En bouc émissaire.
C'est un peu comme Ralf Schumacher. Ralf Schumacher, on était tous un peu contents qu'il se barre parce qu'il avait plus sa place en Formule 1. Mais il y a quand même eu le sentiment d'avoir un vide. Voilà. Piquet, c'est pareil. Piquet, on est content qu'il soit plus en Formule 1. Mais on est quand même content quand il revient sur le banc de la scène, ça fait du débat. Voilà. On a un mec à qui s'en prendre, quoi.
Oui, puis c'est vrai que quand tu vois ce qu'il y a à la place sur d'autres disciplines, alors même moteur. Ah, bah, ça, ouais.
Il va commenter par Pat et Phil.
Non, oh, franchement, monoplace, ils étaient pas terribles en monoplace. Niveau
le
ambiance,
mec qui fait,
ils avaient fait la 1GP sur NT1, c'était pas folichon.
C'était moins leur truc, ouais.
Ouais.
C'est vrai que Delperrier, par exemple, bon.
Ah non, par pitié. Ah
non. Non, mais le mec qui fait l'athlétisme sur France Télévisions.
Patrick Montel.
Oh non. Non, pas lui.
C'est Sébastien Montel.
Moi, ah je non, une... Mieux qu'une course, une qualif en Q3 avec Patrick Montel.
Attention, Patrick Montel et en même temps des interviews
de Nelson Montfort.
Je parle de Nelson Montfort.
Ah bah attends, France Télévisions chope les droits télé pour 2013.
Ah mon dieu.
Nelson Montfort va être dans les stands.
Au détour des jeux, j'ai entendu cette phrase, parce qu'attention, on sait jamais si France Télé les prend, il paraît que Lionel Chamoulot...
Oh non.
C'est un amateur de sport auto.
Il faut que les gens comprennent qu'être amateur, être aimé, c'est bien, mais être spécialiste, c'est pas la même chose.
Chamoulot, il a déjà fait de la F1.
Ah si, il était envoyé spécial du niveau en 94, c'est lui qui était à Monza quoi.
Oui,
ah,
non, c'est lui qui était à Monza, ouais.
Mais pour TF1 ?
Non, pour France 2.
Non, pour France 2.
Ah ouais, mais d'accord, mais
oui, mais c'était
C'est-à-dire qu'ils couvraient pas vraiment les grands.
Ils
envoyaient quand même des gens sur place quoi.
Bah ils couvraient mais sans avoir les droits de diffusion quoi.
Ouais, voilà.
Mais c'est bien fait l'équipe. Était...
Après sur TF1 par exemple un Laurent Dupin, ça serait bien de voir ce qu'il pourrait donner.
Non, c'est dit un Denis Papin.
Non, ça, lui c'est le gars qui a inventé la machine à vapeur. Mais comment tu te gourres ? Comment tu peux te gourer ?
Et après on va dire que c'est moi qui
Mais Laurent Dupin,
il a fait une séance
à Valence. Oui. Parce que Malbranque n'avait plus de voix.
Ah bah oui, il avait plus de voix.
Je pense qu'il a fait celle du samedi matin et que Malbranque est revenu pour les qualifs.
Ah, c'est celle où je dormais.
Mais il a fait une. Mais il n'a pas laissé un mauvais souvenir, donc.
Un souvenir impérissable, en fait, c'est ça le truc.
Ouais, enfin, sur une séance non plus.
Ça va pas choquer, en tout cas.
Voilà. En fait, il y a plein de gens. La bonne question à nous poser, c'est pas qui on voudrait voir, c'est surtout qui on ne veut pas avoir.
Mmh. Ouais, voilà. C'est vrai. Malbranque.
Bah, mais tout le monde, hein. Mais l'annuaire, carrément. À part nous.
Le type d'Eurosport, je sais plus son nom.
C'est qui ? Il s'y tourne pas sur Eurosport ? Ah, Gilles de la Posta ?
Non, celui qui...
Non, Gilles de la Posta, encore, qui... tu vois, ça va, parce qu'il vit des trucs.
Celui qui était encore l'an dernier sur le plateau de Dimanche F1, et qui cette année n'y est plus, et qui fait des chroniques qui sont très savoureuses sur...
Bah, Vrigno.
Voilà, Vrigno.
Voilà.
Moi, j'ai pas Eurosport, donc je sais pas qui c'est. Mais c'est vous qui avez fait sa réputation auprès de moi. Et...
Moi, je regarde pas. Bah, si, pour les séances de scène, mais c'est vrai que dimanche, j'ai faim, je prends pas. J'ai pas l'habitude, en fait.
Mais en même temps, il y a pas d'horaire pour
dimanche. Il fait des chroniques, quoi. Ah oui, des experts. C'est l'expert Eurosport.
C'est l'expert F1 sur le site, ouais.
Et niveau radio, tu pensais pas qu'on pourrait transférer quelqu'un de la radio ?
Ben, il y a.
Jean-Luc Roy est tombé.
Moi, je n'ai jamais. Moi, Tambay, j'ai le souvenir, c'était à l'époque où c'était Delperrier sur RMC. Parce qu'il a déjà fait de la F1 Delperrier sur RMC,
oui.
Hein.
Oui.
C'était à l'époque où j'étais sur Liège et que j'avais pas la télé. Donc, j'écoutais la F1 sur. En podcast.
Ça doit être dur.
Sur RMC.
Plus pro Renault que Delperrier, c'est pas possible.
Mais Tambay était pas mal, c'est vrai.
Oh, la FIT.
Oui, mais la FIT, c'est des formations professionnelles. Ça peut se comprendre. Il a roulé pour, oui. Et Delperrier.
Il y a des consignes aussi, sûrement.
Faut pas... Non, mais tu vois, à la limite, moi, c'est dans le trio actuel que Lafitte, il a eu ses chouchous. À la limite, ça me dérange pas parce que on lui demande pas d'être neutre.
C'est pas un journaliste.
Voilà, il n'est pas journaliste. Voilà, ce qui me dérange, c'est que les deux journalistes soient moins neutres. Voilà, pour le coup, je préfère avoir deux journalistes neutres et un mec qui est pas du tout neutre. Voilà, ou alors à la limite avoir un journaliste qui s'assume clairement un peu comme un peu neutre, genre Froissart.
Oui.
Froissart, il s'assume, voilà, clairement, mais de toute façon, Froissart, je vois même pas commenter un grand prix.
Je vois même pas. Quelle magnifique victoire de Lewis Hamilton.
Voilà, je sais même pas ce qu'il pourrait dire, Froissart. À la limite, Froissart, en consultant.
C'est un grand prix, là, merde, Lewis n'a pas gagné.
Votre homme du match, votre homme de la course, bah, Lewis Hamilton, très clairement, c'est une cinquième place magnifique.
Ouais, mais il a pris deux tours quand même. Oui, non, mais il était bien quand même.
Et j'ai envie de dire, et Margot Laffitte. Pourquoi pas, Margot Laffitte, Montagny et Bourdet aux commentaires.
Ah, Bourdet, j'aimerais entendre, c'est vrai.
C'est vrai que Bourdet, ça
peut les être trois. Pas mal non plus le côté, Margot Laffitte, ça serait une fille. Et puis, moi, je trouve qu'elle est pas forcément trop mal. Elle pose des bonnes questions. C'est pas la fille qui ramène sa science. Elle pose des bonnes questions et compagnie. Ça pourrait être intéressant. Et entourée de deux experts. Avec des profils très différents.
Et quand on parle de légitimité, entre guillemets, souvent, c'est certainement pas elle la moins légitime. Et pas simplement.
Mais qui parle de légitimité? Personne ne parle de légitimité.
Et pas simplement parce qu'elle est la fille de Jacques Laffitte.
Elle pilote,
voilà. Voilà, parce qu'elle est pilote.
Donc ouais, moi sincèrement, moi ce serait mon trio qui n'existera sans doute pas, en tout cas pour Bourdet, Montagny, parce qu'ils ont autre chose à faire. Mais à l'avenir, ça pourrait être sympa, quoi. Je pense après les deux carrières des deux, Margot Laffitte au milieu.
Mais elle avec son père pour qu'il se vouvoie pendant 2 heures, parce qu'à la télé on se vouvoie, même si son père est.
Non, mais il commencerait le Grand Prix en disant tiens, je t'ai ramené des bonbons de la cantoche. Ça serait pas possible.
Mais il paraît que Buemi fait pas mal non plus en consultant pour la télévision suisse.
Oui, mais il parle du nez, on comprend rien.
J'ai jamais écouté personnellement.
Non, il est suisse et tout. C'est pas qu'il parle du nez, c'est qu'il est suisse.
C'est tout pour le répondeur, Dino ?
Oui.
Bon, bien. On arrive donc à la fin de cette émission. On va rappeler les adresses comme d'habitude. Si vous souhaitez poser une question au répondeur, l'adresse c'est...
répondeur@savf1.fr.
Très bien.
On répondra dans 3 semaines.
Oui. On vous rappelle qu'il y a le concours Top Position, que la question, ça concerne donc le Grand Prix de Belgique, sur le nom qui serait en fait le nom du circuit qui en fait est pas vraiment le vrai nom si théoriquement on appliquait le principe du vrai nom.
Les relous de questions.
C'est surtout, c'est généralement, Jim dit, alors Dino, rappelle-nous la question, et là, je sais pas, il est parti tout seul.
Oui.
Il part en impro, il dit, allez, là, je me fais à moi, là, y est, la question, elle est pas dure, je vais savoir l'expliquer. C'est très bien, je t'admire, Jim.
Est-ce que tu as compris l'explication que j'ai donnée?
Mais oui, mais moi, je connais la question.
C'est un peu comme
est-ce
le 17.
Est-ce que vous avez compris l'explication que j'ai donnée?
Mais c'est très clair, c'est un peu comme le 17 qui est en fait un 14.
Enfin.
À peu près.
La réponse est compliquée quand même. Il y a plusieurs réponses possibles.
Je pense que la réponse vainqueur, c'est le guide de l'armée. On s'en fout. Ça veut dire c'est pas franc-enfant. Faites pas chier avec votre question.
Pas mal, me dit Stavlo, je sais pas quoi.
Donc,
le circuit de Belgique, voilà, le circuit de la province de Liège.
Donc pour répondre au concours, c'est concours@savf1.fr. C'est bien ça?
À noter que on peut quand même vous dire que il nous manque. Donc là, on est pas mal niveau invité, mais il nous manque pour le Grand Prix de Singapour. Et sachez que si vous venez pour le Grand Prix de Singapour, vous permettrez au Savez de la F1 de faire un record, puisque on est bouclé jusqu'au Grand Prix du Japon. Donc vous permettrez non seulement d'atteindre le record de 12, 13, 14 Grand Prix de suite avec des invités différents avec vous, mais en plus on atteindrait le chiffre extraordinaire de 16 Grand Prix en allant jusqu'au Grand Prix du Japon. Vous voyez, grâce à vous, si vous venez à Singapour, vous êtes jamais venu, vous serez un héros pour
qui perpétuerait cette chaîne de l'amitié qu'est le voilà. SAV de la F1.
Donc n'hésitez pas, c'est contact@savf1.fr.
On vous rappelle, comme d'habitude, on est sur iTunes, donc n'oubliez pas les 5 étoiles, ça fait plaisir. On est sur Podcast France, vous pouvez voter pour nous, ça fait plaisir.
Oui.
Sur Twitter, n'oubliez pas le hashtag...
Votez pour nous, parce que ça fait plaisir.
Ouais, votez sur nous-mêmes sur Twitter. Hein. Le hashtag SAVF1. J'ai bien tout dit, là.
Le reach des podcasts.
Oui, mais non, ça, c'est après.
J'en sais rien, je suis pas le producteur.
Normalement, t'aurais dû dire au moins des 5 étoiles du iTunes.
Voilà, c'est ça. T'as dit les 5 étoiles, donc c'est trop facile.
Mais sur iTunes, sur Podcast France, sur fan-f1.com, le SAV de la F1, c'est le...
Read des podcasts.
Voilà, c'est pas que sur iTunes.
Mais c'est la famille aussi, quand même.
Et n'oubliez pas, la F1 sur Internet, c'est sur...
FanF1.com.
C'est bien, vous avez... c'est rentré, ouais. Hein.
Okay. Bon, c'est pas comme si on était tous les trois rédacteurs. Enfin...
On a des intérêts dans l'entreprise.
Allez, on vous souhaite une bonne course de Belgique. Un dernier mot, les gars? Oui.
Moi, je voudrais avoir un dernier mot, puisque on a appris pendant la trêve que Philippe Bulgaski nous avait quitté.
Oui. Ah, oui.
Voilà, c'est pour avoir une petite pensée pour ce grand pilote de rallye français, multiple champion de France de rallye, qui avait remporté 2 rallyes en 99.
C'est le premier pilote à avoir gagné sur Citroën en WRC.
Voilà, au Tour de Corse et au Grand Prix de Catalogne. Non, d'abord au Grand Prix de Catalogne et ensuite au Tour de Corse. Voilà. Donc voilà. Elle était triste cette trêve estivale. Entre Bugalski, Tony Scott, Neil Armstrong, Lance Armstrong qui perd ses titres.
De la rue.
Johnny qui est peut-être atteint d'un rhume. Je sais pas. Waouh. Il y a trop de choses qui se bousculent, trop d'émotions.
Allez, ciao à tous. Bye bye.
Salut.